friend of mine who saw you just the other day. Oh, I guess that you were back in town. It's been a long time since you've been around. Remember when we used to make the streets unsafe together, baby? We were young and foolish then. Oh, how I wish we could go back again. I've decided it's been too long, baby. Reaching out to touch your heart. Hope for a maybe. I get a one-way ticket down the memory lane. There are two hearts beating. There's nothing will ever be the same. We had a chance, babe, to work it all out. Mind too many times. If I say that I still love you, babe, would you leave all bad things behind? I promise I won't mess things up like I did last time I saw you. I did a lot of things that I regret. Now I'm not playing hard to get. Oh, I decided it's been too long, baby. Not to touch your heart, hope for a maybe. I get a one-way ticket down the memory lane. There are two hearts beating, just nothing will ever be the same. We had a chance, babe, to work it all out.
Bienvenue, bienvenue, bienvenue les beaux gosses. Je crois que mon micro était un peu fort. Éteins-toi, petite musique. Voilà, bienvenue dans cet après-midi, Étienne. Je suis allé vérifier, on peut dire un après-midi ou une après-midi. Quoique le dictionnaire de l'Académie française recommande un après-midi, mais l'après-midi, Étienne, ça marche pas. Parce que mon famille n'est pas Étienne. C'est le mien. Ça n'est pas le tien. C'est le mien, mais c'est Étienne et pas Étienne. D'ailleurs, c'est le mien, et pas le vôtre. Donc l'après-midi, Étienne, toléré. Voilà, les deux sont OK. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce matin, j'ai voulu faire une revue de presse. Enfin, et puis hier soir, je me suis rendu compte que j'avais un engagement à 11h. Voilà. À 11h, un petit projet secret qui m'emmenait jusqu'à 15h. Ça a débordé un petit peu. Vous le voyez, les 17h. Pakoun qui n'écoute pas. On dit un midi, donc un après-midi, non. Je viens de dire que dans la langue française, les deux sont tolérés avec une petite préférence de l'Académie française pour une après-midi. Voilà. Faut le dire combien de fois. C'est incroyable, ça. J'ai quand même une, c'est fou d'avoir des viewers qui sont sourdingues comme ça. Ça va, Pakoun? Je viens de le dire, bordel. Donc, voilà. Donc, j'ai lu les journaux ce matin. Je me suis levé très tôt. J'ai lu les journaux. Ils sont là. Le petit chemin de fer, les petites notes, etc. Il y a du Parisien, il y a de Libération, du Figaro, La Croix, l'Humanité, l'Opinion, les Échos, l'Équipe, le Monde, etc. Voilà. Et donc, il y a de l'actualité. Et j'y tenais parce qu'en plus, j'ai une petite annonce à vous faire. Hein. Les projets secrets du SAM, c'est comme les sanctions contre la Russie. Il y en a toujours en plus. Ouais, ok. Tiens, tes médecins, ça m'a... Ouais, j'avoue, là. Ouais, j'avoue. Ouais. Et encore là, je m'applique là. Là, je m'applique là. Donc, petite revue de presse de l'après-midi. L'après-midi, Étienne. Merde, Étienne. Sinon, ça marche pas. Et aussi une petite annonce, un projet sur lequel on a travaillé ces dernières semaines. Avec Joe, parce que ça y a un peu de production, il y a un peu de voilà, on va vous emmener la semaine prochaine, jeudi prochain, le 12 juin à 20h dans un bel endroit, voilà, pour faire un truc sympa, mais un truc je crois pas que ça ait été fait jusqu'à là. En tout cas, c'est assez original, ma foi, enfin, c'est très sympa, voilà. Et j'ai même une petite bande-annonce. J'ai même une petite bande-annonce à vous montrer, voilà. Voilà, pas un truc de super production, hein. On l'a fait à l'iPhone tranquillou, mais une petite bande-annonce. Voilà. Oui, un petit stream ce soir, Louis Chartier, j'ai bien envie. Mais tardivement, puisque avant j'ai promis aux enfants de leur montrer la Switch 2 là, qu'on a testé hier soir avec le nouveau Mario Kart. Là. Bien sympa, ma foi. Et donc les deux petits, 5 et 8 ans, totalement hypés, bien sûr. Petit live aux chandelles. Je connais pas, Pierre-Yves. C'est quoi? C'est un restaurant? C'est un musée? C'est quoi? Je ne connais pas. C'est ça. C'est quoi, c'est un endroit du soir, ça? Chandelle. C'est plus le soir, ça. Et donc ce soir, j'amène la Switch 2 à la maison. Et puis après, quand les enfants sont couchés, je reviendrai vous voir pour jouer peut-être à Everrain, non? Est-ce que tu as eu des bugs comme beaucoup de personnes sur la Switch? Alors moi, j'ai eu zéro bug, remake. Après, les gens, ils savent pas. Moi, je suis un peu. Bon, je suis un gamer. Hein. Voilà. Je suis un gamer, je suis un peu un ingénieur. C'est pas une Switch 2 qui va me. Hein? Voilà. Donc, non, moi j'ai eu zéro bug. Bug de quoi? J'ai même réussi à l'acquérir par le PC, quoi. Via la carte d'acquisition, donc, non, ça va en vrai. Ça va. Bug de quoi? Ça clash les collègues streamers. Quoi, il y a des streamers qui n'ont pas réussi à. Qui ont eu des soucis? Type quoi? Donc, oui, stream ce soir, mais pas avant 22h, quoi. Heavy Rain, un petit Heavy Rain, on va finir Heavy Rain ce soir. Pensez pour Rayu comme si Rayu pourrait avoir il a eu des problèmes d'acquisition. Hein, c'est ce qui est compliqué avec les. On idéalise trop les ingénieurs, me dit Yugas, j'en suis un. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les ingénieurs. Comme j'étais pas champion en maths. Et donc, apparemment, via des téléchargements de jeux en digital, elle s'éteint en plein jeu téléchargement. Bon, moi, j'ai pas eu de soucis. Alors, l'acquisition d'une console, c'est parfois un peu compliqué. On parle par une carte d'acquisition Elgato ou par mieux une carte d'acquisition interne au PC. C'est ce que j'ai mis, moi, petit port HDMI. Après, ça demande quelques réglages. Voilà. T'es champion au passage du firewall du monde, exactement. Donc, non. Après, j'ai juste eu un problème de conflit de résolution entre OBS et la console. Et donc, j'ai dû aller dans les réglages de la console pour que l'acquisition se passe bien. Mais voilà. Ça l'a fait, ça. Ce soir, Heavy Rain plutôt. Hein. J'aurais bien remis un coup de Mario Kart, mais comme on a lancé un stream de Heavy Rain cette semaine, on va je pense, finir le jeu ce soir. Ou alors, il y a un troisième stream, je sais pas. Tu fais le GP Explorer? Je ne fais pas le GP Explorer, Benji. En vrai, ça m'aurait bien hypé en moto, ça. En moto, ça m'aurait bien hypé. Quoi qu'en voiture aussi, remarque. Mais avec des vieilles voitures un peu pourries. Pourquoi il n'y a plus le logo France 2, France 3, mais que France TV maintenant? Je ne sais pas, Atiris. Je pense qu'il faut que tu demandes à la direction de France Télévisions, en vrai. Hein? Bonjour Samuel, bien joué de recadrer les joueurs qui insultent. Oui, bah oui, on a voulu faire cette petite vidéo, ce petit clip, à des fins un peu pédagogiques. Hein, je pense que vous l'avez peut-être vu, peut-être même certains l'ont vécu en live, un jeune garçon mineur, hein, qui a été insultant. Alors on est habitué aux gens qui ragent, aux gens qui trollent, aux gens qui insultent, qui trashent un peu en game, mais là c'était un niveau qui était surréaliste, avec des mots notamment sur les mamans, ça c'est pas possible, mais des mots comme... Quand mon épouse m'a demandé de lui raconter, je n'ai même pas pu lui répéter les mots de ce jeune homme, tellement on les avait trouvés violents. Donc on a vécu ça ensemble, et je me suis dit, ça il faut qu'on en parle à l'extérieur, parce que il faut que ça puisse faire œuvre de pédagogie et que les gens qui se comportent comme ça en game, qui nous niquent nos games en vrai, hein, comprennent que c'est pas possible en fait. Hein. Et donc on en a fait un petit clip, voilà. Et du coup on l'a posté hier soir. Ouais, sur TikTok. Alors manifestement, je suis pas le seul à penser qu'il y a des gens qui abusent et qui dépassent les bornes, puisque ce petit clip qu'on a posté hier soir a déjà 1,6 million de vues sur TikTok. 254 000 likes, 2094 commentaires. Voilà. C'est donc je me suis dit, il faut qu'on partage cette expérience pour qu'on en parle et qu'on prenne conscience qu'en fait, tous ensemble, peut-être qu'on pourra faire réfléchir ces gens-là, quoi. Voilà. Et encore, je suis un garçon. Les femmes sur les jeux en ligne, c'est encore pire, quoi. Le qui, j'ai pas vu le clip perso, bah va voir, ça fera une vue de plus. Ouais. Non, c'est pas sur TikTok, l'annonce, on va la faire ici. Coucou Zéna, très joli prénom. Je vois que la maman de Fadi Douda, 28, c'est Zéna, elle nous regarde en question pour un champion. Elle nous regarde peut-être ce soir aussi, je vois que oui. Zéna, un grand coucou. Voilà, merci à vous deux d'être là. Voilà. On touche pas aux mamans ici. Hein. Voilà, c'est une règle. Et moi, vraiment, il m'a fait sortir de mes gonds, ce jeune homme-là. Je suis sûr qu'il a vu le clip. Je suis sûr qu'il a vu le clip. Voilà. Ce qui est fou, c'est que quand il a appris à la toute fin de game, quand je lui ai révélé mon identité et qu'il a compris que du coup il était sans doute en live, le ton a changé. Il est passé de des insultes les pires, j'en ai pas entendu comme ça, les insultes beaucoup, ah mais j'adore ce que vous faites, je suis pas comme ça en vrai et tout. Voilà. Donc voilà, on touche pas aux mamans. Et puis on respecte les autres joueurs, les mates en game. On essaie de faire de ce monde un peu plus apaisé, quoi. Et pas et on ne laisse pas comme ça la bride à nos pulsions les plus violentes sous prétexte qu'on est derrière un pseudonyme, quoi. Ça devrait être relax, exactement, une safe place. Ouais. J'espère qu'il va le voir. Je donne pas, évidemment, je donne pas son identité dans ce clip, vous avez vu. Voilà. Il y a même des gens qui m'ont dit, ah, mais je sais qui c'est. Je dis, peu importe, j'ai pas envie de savoir, moi. Mais j'ai envie que cette personne réfléchisse à ses actions et qu'éventuellement, parmi les gens qui ont vu ce clip, eh bien, s'il se comporte comme ça en game, qu'il puisse aussi réfléchir à ça, quoi. Ça changera jamais. Essayons, essayons, essayons. Merci, Fadi Duda. Bon. Salut, Gorigots. Ton message me fait très plaisir. Merci beaucoup. Vous, ça va? J'espère que sa maman verra le clip. Oui, si, oui, mais en même temps, je veux pas que cette personne soit sanctionnée d'une manière ou d'une autre. Je veux pas qu'il soit impacté. Mais enfin, c'est vrai que ce comportement, c'est pas possible. J'ai vu que, pardon, j'ai raté un message tout à l'heure de quelqu'un qui préparait un triathlon. J'ai vu ton message, j'ai pas eu le temps de répondre. J'espère que ça va au niveau de prépa. J'ai abandonné les demi de Roland pour ton stream. Ça fait plaisir, Reflop. Moi, ça va. Fadi Douda, merci. Trois super jours à Rennes, Étienne, trop bien. Il faut qu'il soit sanctionné surtout par sa mère. Je sais pas. Il faut qu'il comprenne de lui-même surtout. S'il te plaît, juste une question avant qui est trop de monde. Plutôt Yamaha MT-125. Tu veux dire ou Honda 125R. MT? Je l'ai pas celle-là. Je connais la DTMX, la DTLC. C'est quoi la Yamaha MT-125? Ça a changé les motos, hein. Je l'ai pas celle-là. Comment tu dis que tu l'appelles, toi? La Yamaha quoi? MT-125? Bon, 125 déjà. Ah, 125. Ouais, ça n'existait pas, ça, les MT à mon époque. Ça existe, les MT-125? Ah, c'est joli, dis donc. Ah, mais non. Ok, je vois. À mon époque, ça n'existait pas, ça. Ok, MT-125, petit roadster mignon. Ok. Ok. Attends, je vous la montre. Ouais, c'est ça. Ok. Et l'autre, alors? Honda 125R, bon, c'est pareil, les 125R Honda, ça existait à mon époque, mais je suppose que ça a dû changer aussi de look. Petit roadster aussi. Alors, Honda, ça va pas le faire. Ça va me donner de la pluie. Oh la vache, c'est la même, non? Un petit roadster aussi. Ah, c'est mignon. Alors écoute, moi je. C'est deux bonnes marques, hein. Moi, j'ai une petite faiblesse pour les Honda, parce que je sais pas si c'est toujours vrai, mais c'est quand même des bécanes qui ont une fiabilité de fou, quoi. C'est increvable. Hein. Putain, pour tuer une Honda, faut vraiment pas l'entretenir, pas mettre d'huile. Enfin, voilà. Mais après, Yamaha, c'est une très bonne marque aussi. Ça a l'air mignon, ça, la Polylan. Sliverick, je connais pas. C'est à Lausanne. Super Event à Lausanne en Suisse. Je crois que c'est sympa, Lausanne. Où tu joues à plein de jeux vidéo différents. Jeux de cartes aussi, pour accumuler des points. Pas comme la Zina, car tu peux choisir à quoi tu joues. Bon, on va jouer à Valo, nous. On va jouer à Valo. C'est les Ducati qui tombent régulièrement en panne. Ah ouais, pareil que ça va mieux. C'est vrai que j'en ai eu des Ducati. C'est vrai que c'est des motos italiennes, comme les bagnoles d'ailleurs, un petit peu plus fragiles. Sur les Ducati, c'était le joint d'en base qui était un peu faible. Il y a une petite fuite d'huile. Ça, il y a un petit peu de gras. Ouais. Tiens, j'ai... Hier, on a suivi le match ensemble, là, le 5-4, il était fou. Hein. J'ai fait un week-end à Lausanne, incroyable cette ville. Pareil. Ouais. Capricieuses les Italiennes, les motos. Oui, un petit peu. Par contre, en termes de caractère, ça. Ça m'a Ducati, c'était pas la plus solide, mais quand même en termes de sensation, c'était une dinguerie, quoi. Merci Louis Chartier pour le. J'espère que vous amuserez bientôt, toi et tes enfants, sur la Switch 2. On va bien rigoler. Oui, la Enfield Himalayan 410, c'est très beau ça. Je trouve que le rapport qualité-prix des Enfield, c'est assez étonnant. Ouais. Bon, c'est un magazine de moto ici, en fait. Très grave les propos du jeune sur le stream hier. Oui, c'est pas foufou. Ça parle de moto. Bon, est-ce que vous voulez que je vous... On va parler du match de la Française, Loïs, bien sûr, à Roland-Garros. Est-ce que vous voulez que je vous révèle le clip, voilà, de ce stream du jeudi 12 juin 20h. Voilà, on a un peu bossé, il y a plein de choses dedans, voilà. J'espère que en termes de son et d'image, ça va aller. On l'a vite fait à l'iPhone. J'espère surtout qu'il n'y aura pas de double piste. Quand je mets une vidéo, parfois, c'est ce qui se passe. Donc, je vais couper le son qui vient du PC, ce qu'on appelle l'audio du bureau. Voilà. Et donc ça va couper là. Et je vais vous mettre que le son de la vidéo. Ok, bougez pas. Vous êtes prêts? Attention. Donc, j'ai coupé l'audio du bureau. Ça va partir très vite. J'ai un peu la... C'est là. Normalement, c'est là. J'espère que ça va marcher. Ok. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Prêts? Là, c'est l'écran noir, c'est normal. Hein. Prêts? On enlève le chat, peut-être? Ah, pour que ce soit plus joli? Je sais pas. On va laisser le chat, on est sur Twitch. Let's go. Vous n'avez pas de son? Comment ça, vous n'avez pas de son? Ah, c'est bizarre, moi j'ai du son. Ok, alors je vais faire autre chose, mais vous risquez de l'avoir en écho. Ok. C'est pas grave, dans l'habitude, les vidéos sur OBS, c'est toujours compliqué. En fait, vous allez avoir le son du... Ah non, si je mets le son du bureau et pas de la vidéo, vous aurez rien non plus. Ouais. Alors je vais remettre le son du... Ça n'a rien à voir avec le micro MMG, bordel, tu devrais savoir ça, mon chouchou. Ok. Alors là, on risque d'avoir de l'écho, mais peut-être pas trop d'écho. Ok, on essaie. Ok. On recommence. Vous êtes prêts? De toute façon, je m'attendais à ce que ce soit toujours compliqué les vidéos. C'est de ma faute. Alors, j'ai remis le son du bureau. Ok, ça devrait aller comme ça. Ok, vous êtes prêts? On recommence. Normalement, vous devrez avoir le son. Peut-être avec un petit écho.
Jouer aux jeux vidéo, c'est bien. Mais j'ai trouvé mieux jouer aux jeux vidéo dans le plus célèbre musée au monde, le Louvre. Jeudi prochain, le 12 juin à 20h, à l'occasion de l'exposition Mamelouk au Louvre, sous ses anciens esclaves devenus les maîtres de Constantinople au près de 3 siècles, nous allons jouer avec l'ami AlphaCast à Edge of Empire, jeu qui reconstitue notamment des célèbres batailles auxquelles ont participé les Mamelouk. Mais ça n'est pas tout, nous visiterons aussi cette très belle exposition Mamelouk avec ses deux commissaires. Et à la fin du live, puisque tout se passera en direct sur ma chaîne Twitch, un chef nous fera déguster un plat inspiré de l'époque. Un live historique donc. Rendez-vous le 12 juin, jeudi prochain, à 20h. Jouer aux jeux vidéo, c'est bien.
Eh hey. Putain, je vous remets le visuel. Les amis, on va jouer aux jeux vidéo au Louvre. On va aller jouer aux jeux vidéo au Louvre. Ouais. Qui a... Peut-être que ça s'est déjà fait. Hein. Voilà. Parce que, bon, on aime les jeux vidéo, on aime les musées. Ben, on a fait les deux. Voilà. Voilà. C'est pas mal, non? Attendez, je vais même... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même mettre la... Je vais vous mettre le visuel sur la POV principale. Hop, on repasse par WhatsApp. Papy, je vais vous expliquer tout ça. Alors. Non, c'était en mail. Les visuels finaux. Hop, le joli visuel, vous allez voir. On a bossé, hein. Tout accepté. Ok, scanner, télécharger. Hop. Ok, musée du Louvre. Hop, let's go. Voilà. Donc ça, je vais le mettre sur le bureau. Hop. Hop. Et je vais vous le mettre. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ok, je vais vous mettre. Hop, je vous rajoute une scène. Je fais ça en direct. Hein. On va faire... c'est une image. Voilà. On va faire affiche Louvre. Et je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire. Hop, parcourir, bureau, voilà, incroyable, 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 tac, tac, on se le met là, 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 on se le met là, on se le met là, les amis, oui, la fiche est jolie, elle est beau gosse. Alors le principe c'est lequel? Déjà, on s'est dit que jouer aux jeux vidéo au Louvre, c'était bien. Salut Pantoufle. C'est pas mal. Pas mal. Hein. Deux cultures qui se rencontrent. Voilà. Alors pour le coup, là on va remonter dans le temps, puisqu'on va parler des Mamelouks, qui est une civilisation assez étonnante, d'anciens esclaves, venant notamment de Turquie, devenus les maîtres du Proche-Orient entre le 12e et le 15e siècle, pour faire simple, avec des émirs, un pouvoir qui se caractérise par une maîtrise assez poussée de l'art militaire, hein, les Mamelouks. Voilà. Et donc on va... Voilà, 1250-1517, Nico, voilà. Et donc, on va visiter l'exposition qui se tient au Louvre sur les Mamelouks, qui vient de débuter ou qui s'apprête à débuter. Et on va jouer aux jeux vidéo. Voilà. Parce que dans Age of Empire, dans au moins deux éditions d'Age of Empire, voilà, on va jouer à deux, peut-être le 2 et le 4, eh bien, il y a des célèbres batailles disputées par les Mamelouks. Voilà. Donc, on va visiter cette exposition avec les deux conservatrices qui sont passionnantes, que j'ai déjà rencontrées, parce que du coup, j'ai déjà fait une visite un peu privée de cette exposition qui est incroyable. Voilà. Donc, on va visiter l'exposition, on va jouer aux jeux vidéo avec AlphaCast, on va parler des liens entre l'histoire et le jeu vidéo. Hein. Comment... C'est qui déjà qui disait que les jeux vidéo, c'était pour des débiles, là, récemment là, que passé, je ne sais plus quel âge, toute personne qui jouait aux jeux vidéo, c'était un... C'était quoi le mot abruti? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que ça disait. Demeurer. Voilà. Bah nous, on va montrer que c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Et donc, on va parler de l'exposition, on va parler de jeux vidéo, on va montrer les liens, comment le jeu vidéo respecte ou ne respecte pas la réalité historique. Et il y aura même, cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, on va finir par un petit dîner. Il y aura un chef qui va nous faire un plat pour AlphaCast, pour les deux conservatrices, voilà, pour la petite équipe. Inspiré de l'époque des Mamelouks. Voilà. Voilà. J'ai presque envie de vous remettre la bande-annonce. Vous en pensez quoi? Bien ou pas bien? Vous en pensez? Hein? Ça vous plaît ou pas? Trop bien? Et on se refait la bande-annonce? On se refait la bande-annonce? On remet la bande-annonce. Remets, j'ai pas vu, me dit Pantoufle. Ok, c'est parti. Alors attends. C'est là.
Jouer aux jeux vidéo, c'est bien. Mais j'ai trouvé mieux jouer aux jeux vidéo dans le plus célèbre musée au monde, le Louvre. jeudi prochain, le 12 juin à 20h, à l'occasion de l'exposition Mamelouk au Louvre, sous ces anciens esclaves devenus les maîtres du Proche-Orient pendant près de 3 siècles, nous allons jouer avec l'ami AlphaCast à Edge of Empire, jeu qui reconstitue notamment des célèbres batailles auxquelles ont participé les Mamelouk. Mais ça n'est pas tout, nous visiterons aussi cette très belle exposition Mamelouk avec ses deux commissaires. Et à la fin du live, puisque tout se passera en direct sur ma chaîne Twitch, un chef nous fera déguster un plat inspiré de l'époque. Un live historique, donc rendez-vous le 12 juin, jeudi prochain, à 20h.
Papapam ! Incroyable ça. C'est toi qui as demandé à AlphaCast d'accompagner ? Non, c'est Emmanuel Macron qui a fait cette demande, en fait, Pechoun. Voilà. J'ai même mis le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dans la confidence. Donc je trouvais que c'était plus chill finalement, plus original aussi. Donc c'est l'Elysée et la Place Beauvau qui ont invité AlphaCast. D'autres questions ? MMG, MMG qui souvent est sur les bonnes pistes. Hein. Je suppose que le tournage d'hier était lié à cela, tournage très mystérieux toute une journée. Ah là là, pas du tout. Non, ça n'avait rien à voir, c'était un autre projet. C'était plutôt mardi, ouais. Sugar, je crois que tu l'as. Exactement. Hier, c'était encore autre chose. Voilà. Donc, les amis, franchement, je pense que c'est un de mes plus beaux streams de cette saison. Le plus beau stream de cette saison 5 de Papy Sam sur Twitch. Alors, en tout cas, un des plus beaux. Voilà, on est au Louvre, on va jouer aux jeux vidéo, on va avoir une expo, on va manger. Ça va être la fête. T'es grand, en fait, plus que la pyramide, exactement. Bien ou pas ? C'est cool, non ? Merci Shane pour le 10e mois. Merci Andy Joy pour le Prime. Merci Loïc Reviews pour ton 9e mois. Merci Ciel82 pour le 13e mois. Merci Rianino pour le 46e mois, nom de Dieu. Merci Pierre-Yves pour le 38e mois. Merci Broubou06. Ils sont là les habitués. Merci pour le 41e mois. Merci Okalayo. Merci Pixel Curieux. Merci Yanji. Merci. 20h jusqu'au petit matin ? Non, bah non, parce qu'il faut libérer les équipes de sécurité du Louvre. Hein. C'est-à-dire qu'on aura le Louvre que pour nous. Hein. Puisque après, à cet temps-là, il n'y aura que nous. Et donc après, il faut libérer les équipes, notamment de sécurité. Et je crois qu'on va jouer à Edge of Empire 2 et 4, si je ne dis pas de bêtises. Avec les batailles, un peu privatisées. Concernées. Voilà. Donc ça va faire du 20h, 22h30, 23h. Voilà. Avec une petite prod, hein, parce que du coup, ça veut dire qu'on emmène des setups de gaming au Louvre, ouais, avec la petite camionnette, la rampe, voilà, après des petits diables pour transporter tout ça, les PC, tout ça, des setups de trucs, le petit setup pour se promener dans l'expo, une petite équipe pour le son, et puis la petite étape de cuisine et tout, quoi. On emmène Joe dans la poussette, on emmène des caméras dans la poussette, je sais pas s'il y aura une poussette cette fois. Voilà. En tout cas, ça a l'air de vous plaire et j'en suis bien content. Voilà. Ça aurait été marrant avec les touristes qui feraient des selfies autour. Ça aurait été marrant, en vrai. Mais à ce temps-là, ils ne sont plus là. Voilà. Donc, jeudi prochain, les amis, je compte sur vous. Du coup, je vais poster ça sur X, sur Twitter, parce que je voulais vous réserver la primeur de l'annonce. Merci, Pantoufle, ça fait plaisir. Je voulais vous réserver la primeur de cette annonce, voilà, avant de la poster sur les réseaux. Donc, maintenant, je vais la poster sur X. Sachant que c'est peut-être sur Insta et sur TikTok déjà, parce que mon ami Lucie a dû s'en occuper déjà. Hop, voilà. Et je tweet sur X. Et sinon, toi, tu joues où aux jeux vidéo ? Moi, au Louvre, en toute simplicité. L'humilité absolue, quoi. Et sinon, virgule, toi, tu joues où aux jeux vidéo ? Moi, au Louvre. C'est bien, c'est très bien ça. Hein. Tu as un petit côté toréton sous cette. Ah oui, c'est pas faux, ouais. Les chevilles, ça va. Pourquoi jouer dans son salon quand on peut jouer sous la Joconde ? Ah, c'est mignon ça, c'est drôle ça. Tu veux pas taguer Yann Moix ? Oh, ce serait tellement drôle. Ah, si, Alpha K, je le connais, Alpha. On a déjà fait pas mal de choses ensemble déjà. Salut, j'allais dire Drucker, non, Duker, excuse-moi. Pourquoi il télécharge là ? Attends, je vais le refaire. Incroyable ça. Hop. Tac. Après, on commence la revue de presse, hein, je vous oublie pas. Hein. Supprimer. Tac. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Camille qui rigole. Faut que ça télécharge. C'est ce qu'on va faire? Ouais, je vais lui allumer le. Ah, attends. Tu serais pas sur la. Tu serais pas sur la petite box truc, toi? Ah, c'est bien ce que je pensais. J'en étais sûr. Je vais éteindre ça. Il était sur la clé, la 4G, dont je me sers quand je travaille dans les taxis. Voilà. Et là, ça devrait aller plus vite. Ah, bah, ça marche pas du tout, même. Ça marche plus du tout. Ah, parce qu'il n'était pas encore dessus. Voilà. Il n'était pas encore sur la box. L'ingénieur, l'ingénieur. Toujours. Hop. Là, ça va télécharger. Oh, comment ça, teaser Louvre MP4 erreur? Bien sûr qu'on fait une revue de presse. Ah, ben non, c'est pas une blague. Je vous ai vraiment préparé une revue de presse. Ah, c'est en train de marcher. Live de fou. Merci Mathieu. Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Bien sûr. Ça me plaît. Le Rage Max. Hello Sam, grâce à toi, je me suis mis à la course à pied. Je fais ma première course dimanche. J'espère que ça va bien se passer. Merci Cluxy pour le raid. Merci Protski. C'est tout les skis et les xis. Merci à tous les deux. Normalement, c'est bon. Excusez-moi, je suis en train de poster. Ça devrait aller. Salut Protski. C'est en train de poster. Bah, je voulais absolument que vous ayez l'annonce avant tout le monde, quoi. Voilà, ça est posté normalement. Attends, on va aller voir, on va vérifier sur X. Comment ça, vous venez pour la bande-annonce? On va vous la remettre, on va vous la remettre. Comment ça, trop tard? Faut leur la remettre. Attendez, on va leur la remettre. Attends, la bande-annonce. Les pauvres. Attends. C'est parti.
Jouer aux jeux vidéo, c'est bien. Mais j'ai trouvé mieux. Jouer aux jeux vidéo dans le plus célèbre musée au monde.
Le Louvre.
Jeudi prochain, le 12 juin, à 20h, à l'occasion de l'exposition Mamelouk au Louvre, sur ces anciens esclaves de tous les maîtres du Proche-Orient pendant près de 3 siècles, nous allons jouer avec l'ami AlphaCast à Edge of Empire, jeu qui reconstitue notamment des célèbres batailles auxquelles ont participé les Mamelouks. Mais ça n'est pas tout, nous visiterons aussi cette très belle exposition Mamelouk avec ses deux commissaires. Et à la fin du live, puisque tout se passera en direct sur ma chaîne Twitch, un chef nous fera déguster un plat inspiré de l'époque. Un live.
Un kebab, quoi.
Donc, rendez-vous le 12 juin, jeudi prochain, à 20h.
Tatatin! Ça, c'était pour les raiders qui viennent de nous rejoindre. C'est qui le chef? Oh, je sais plus, on m'a dit, mais c'est un chef. Ah, il y a une BA de l'expo sur le YouTube du Louvre. Exposition Mamelouk. Ah, il y a une bande-annonce, pas mal ça en vrai, on peut aller voir en vrai. Attends, 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 c'est pas mal ça. Allons vérifier d'abord que j'ai bien posté la. La vidéo.
C'est bien, mais j'ai trouvé mieux.
Ça marche, ça marche. Ça marche bien. Non, je pense que le son aurait été meilleur d'ailleurs. Ok. Et ça réagit déjà, c'est incroyable. Les habitués sont là, c'est fou. C'est fou. Bonne idée, ça, on va aller voir, on va aller voir le. On va aller voir le. La chaîne YouTube du Louvre. Pas con, pas con. Le Louvre. Ils ont une chaîne YouTube, ils ont une chaîne YouTube qui est une chaîne importante, je crois. Pourquoi je la trouve pas? L'hôtel du Louvre. Non, 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 non. Welcome to. Bienvenue au Louvre, j'ai trouvé. Fais gaffe, ils étaient cannibales. Oh non, c'était une civilisation extrêmement développée, extrêmement éclairée, qui s'intéressait énormément aux arts. Je pense que par certains aspects, ils étaient peut-être plus civilisés que nous, si vous voyez ce que je veux dire. Les mamelouks dont je parle. Ouais. Mais en vrai, du coup, je me suis penché sur cette civilisation des mamelouks que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça passionnant. Alors, je ne vois pas du tout la vidéo dont tu parles. Ah, je l'ai. Voilà. Hop. La vidéo de la chaîne YouTube du Louvre. Sur cette expo. Ah, 1h14, ça va pas être ça, non. Ah, 1h14, c'est pas ça. Ça va être compliqué. C'est pas celle-là, ouais. Ah, ça doit pas être ça, ouais. Par contre, je vois pas la bande-annonce, mon chouchou. Là, à 11 jours, il y a eu ça. Mais c'est tout. T'es sûr que c'est sur la chaîne YouTube? J'ai l'impression que c'est une info chat, ça. Hein. Parce que là, c'est toutes les dernières vidéos. Ah, ou c'est la vieille, là, celle-là? Celle-là, là? D'il y a un mois? Ça doit être ça, alors.
Il y a bien longtemps, enfants des steppes, enlevés à leur famille, ils furent élevés loin de leur pays d'origine et formés à devenir des guerriers d'élite. Esclaves affranchis, ils devinrent les soldats les plus redoutables du Proche-Orient. C'est de leurs armes et de leurs mains que va naître l'Empire Mamelouk. De l'Égypte au Levant, leur puissance guerrière devint une domination politique et une civilisation brillante. À la virtuosité militaire répondait l'excellence de leur art. Durant plus de 2 siècles et demi, les Mamelouks formeront une dynastie légendaire de déracinés. Au carrefour de l'Asie, l'Afrique et l'Europe, les Mamelouks contribueront à créer un Orient connecté. Leur grandeur résonne encore aujourd'hui. Mamelouk, une exposition inédite au Louvre.
Incroyable, hein? Alors pour le coup, moi j'ai eu la chance de visiter cette exposition-là. En petite visite privée, quoi, pour bien comprendre. J'ai été bluffé, quoi. J'ai été bluffé. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout l'histoire de cette civilisation, quoi. Avec donc des anciens esclaves, hein, des gens qui étaient enlevés, notamment dans ce qui correspondrait à la Turquie aujourd'hui, mais pas seulement. Donc, c'était pas des musulmans, c'était pas des arabes. Ils étaient enlevés pour être formés, pour devenir des militaires. Et puis après, à mesure qu'ils franchissaient certains échelons, ils étaient affranchis. Et puis jusqu'à devenir émir et de régner, en fait. Voilà. Et donc avec cette période et cette région là, qui correspond à peu près au Proche-Orient, là, notamment vous avez l'actuel Israël, l'actuelle Palestine aujourd'hui et encore une zone beaucoup plus étendue, avec donc un pouvoir donc mamelouk, mais avec une population en grande majorité arabe et musulmane, et une assez grande tolérance pour l'époque, pour les minorités religieuses, catholiques, juifs. Voilà. Donc une civilisation plutôt militaire, avec une grande ouverture, notamment sur l'art. Sur l'art. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu des routes commerciales. Des routes commerciales qui se sont ouvertes à l'époque entre cette région-là et l'Europe et l'Asie. C'est pas l'Empire ottoman, c'est autre chose. Hein. Et l'Europe et l'Asie, et vous aviez des œuvres d'art, des vases, des tissus, notamment des écrits. C'était une civilisation qui avait un rapport très, très, très fort avec l'écrit, qu'on retrouve en Asie, qu'on retrouve en Europe, des commandes artistiques. C'est incroyable, quoi. Voilà, donc c'est assez fascinant. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Et donc, il se trouve que Age of Empire, le jeu, évoque les Mamelouks. Les Mamelouks se sont opposés aux forces croisées, exactement, ouais. En fait, les Mamelouks ont protégé, entre guillemets, la région des croisés, de plein d'invasions, en fait, de plein d'invasions. Voilà. C'était des guerriers redoutables. Et Age of Empire évoque les Mamelouks uniquement par l'aspect militaire, hein, avec des troupes qui sont les Mamelouks, en fait, dans le jeu. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va essayer de voir dans le jeu ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai... est-ce qu'ils étaient à dos de chameaux ou sur de chevaux? Est-ce qu'ils maniaient l'arc ou l'épée, le sabre? Et on va voir que parfois le jeu vidéo il se trompe volontairement ou involontairement, et parfois il se trompe pas. C'est assez intéressant. Voilà, c'est ouf. Pour ceux qui répondent qui veulent expliquer que le jeu vidéo est un art mineur, eh bien on va pouvoir répondre que non, le jeu vidéo c'est aussi un art qui ouvre sur plein de choses, sur la culture d'une manière générale. Démonstration, on va jouer aux jeux vidéo, au Louvre, mesdames et messieurs. Voilà. C'est pas mal. Bon, après, j'en parle très mal. Moi, je vous dis ce que j'en ai retenu sur à l'issue de ma visite, mais on aura deux commissaires de l'exposition, deux femmes, dont la commissaire principale a préparé cette exposition pendant plusieurs années. C'est ouf. Et qui, du coup, va nous expliquer tout ça. Et en vrai, c'est une dinguerie, quoi. Voilà. Bien sûr qu'on va faire la revue de presse, Louis. Ah, bon, mais je suis content que ça vous ait plu, en tout cas. Hop. Pourquoi on l'appelle commissaire ? Je sais pas, en fait. C'est un commissaire. On dit commissaire d'exposition, c'est le responsable de... Est-ce que c'est les mamelouks que Napoléon a utilisés dans l'armée française ? Je sais pas, mais je sais que les mamelouks se sont opposés, je crois, à l'armée napoléonienne, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mmh. Ouais. Merci, Icartac. Donc, salut la petite potière, ça va ? Je te vois en live parfois. Très bonne chaîne, la petite potière, n'hésitez pas à aller voir. La petite potière, comme ça se prononce, comme ça s'écrit, collé. Et donc, en gros, on se retrouve jeudi prochain, on commencera par parler un petit peu de l'expo, qu'on visitera en partie. Ensuite, il y aura une séquence de jeu. Après, on reviendra sur le jeu avec la commissaire. Je ne devrais pas tout vous dire, mais il y aura aussi quelqu'un du studio. Voilà. Le studio a dépêché quelqu'un, je ne vous l'ai pas dit. Le studio a dépêché quelqu'un qui a travaillé sur le jeu, pour nous parler de ce jeu et des liens avec l'histoire. Donc, on reviendra sur le jeu avec ce double regard. Après, on rejouera encore. Après, on reparlera de l'exposition. Et puis après, on mangera. Voilà. Il y aura un petit dîner avec un plat inspiré de l'époque. Voilà. Petit stream chill. De rien, Dames de Ville, ça faisait plaisir. Allez, j'enlève le sweat parce qu'il fait chaud et on part pour la revue de presse. Je vous fais un petit sommaire tout de suite. C'est drôle parce que hier matin, j'ai fait une revue de presse tardive, j'ai fait à 11h, j'ai dit « Ah, c'est pas bien 11h, une revue de presse, faut que ce soit à 9h, c'est mieux. » Et je vous dis « À demain, 9h sans faute, quoi. » Et puis en rentrant à la maison après le Mario Kart là, sur la Switch jeu, j'ai regardé mon agenda, ce que je fais pas souvent, et je me suis rendu compte que j'avais un engagement de 11h à 15h. Voilà. Résultat, je l'annonce à 17h40. Allez comprendre. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit sommaire ? Je vous abandonne à 20h. À 20h, j'irai jouer avec les enfants à la Switch 2. Et après, je reviendrai vous voir pour un petit stream, a priori, de Divi Rain. Ok ? Let's go pour le sommaire ? Allez. De quoi je vous parle aujourd'hui ? On va revenir sur ce meurtre terroriste. Hein. Je vous rappelle que c'est une enquête pour attentat terroriste qui a été ouvert par la justice française. C'est la une de l'Humanité ce matin. Hop. Donc je vous montre rapidement, après on va développer tout ça bien sûr. En vrai, revue de presse fin d'après-midi, c'est cool. Bah, je me dis qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être là le matin, qui peuvent être là l'après-midi, ça change un petit peu. En tout cas, je vais vraiment faire l'effort de vous en proposer le plus possible. On a parlé très longuement hier de ça, parce que c'est gravissime ce qui s'est passé, un assassinat raciste. Hein. Je vous rappelle que la justice parle même d'un attentat terrorisme, il y a eu préméditation, il y a plein de critères en fait, notamment le fait que en fait dans ses écrits, dans ses vidéos, l'auteur de ce crime appelait finalement le reste de la population à suivre son exemple. L'assassinat raciste d'Hicham Mirawi à Puget sur Argence illustre une réalité identifiée par les services de renseignement. Les discours xénophobes dans notre pays, amplifiés par les réseaux sociaux, installent un climat de haine et de violence. On le sait, on le pressent, on en a la démonstration. Certains n'avaient pas entendu parler de cette histoire, on en a parlé longuement hier, vous l'avez en replay. Voilà, là on voit aussi un article de l'Humanité sur l'émotion dans cette petite ville après l'assassinat d'un coiffeur. C'était un monsieur qui venait de Tunisie, qui était passionné de coiffure. Voilà. Hicham Mirawi, l'émotion après le drame. Voilà. On se penchera là-dessus ce matin, je voulais commencer par ça. Quoi. Ensuite, Alors ça, excusez-moi, c'est une affaire dramatique extrêmement, extrêmement violente, mais là aussi je me dis que ça peut faire réfléchir les gens peut-être sur les haines liées aux races, aux religions. L'histoire, elle est affreuse, je ne crois pas l'avoir traitée encore. Mais c'est l'heure du procès maintenant. Procès, le terrifiant récit d'un viol antisémite. Ici, on dénonce tous les racismes. tous les sexismes, toutes les homophobies et toutes les discriminations. Cette histoire est monstrueuse. Cette histoire est monstrueuse. Les plus sensibles d'entre vous, je vous demanderai de vous éloigner peut-être tout à l'heure. C'est le viol en réunion d'une collégienne de 12 ans, à Courbevoie, c'était il y a un an, accusée par ses tortionnaires d'avoir caché sa religion juive, voilà, notamment à son ex-petite amie, prétendue être musulmane. Trois garçons de 13 et 14 ans sont jugés par le tribunal pour enfants mercredi. Elle a vécu l'horreur, elle a littéralement vécu l'horreur. Voilà, je vous en parle pas pour se délecter de la violence de ces actes, mais peut-être de nous faire réfléchir en tant que collectivité, en tant que société, pour que ce genre de choses n'arrive plus. Voilà. Donc désolé, c'est pas très très joyeux tout ça, mais je pense que c'est de notre devoir d'en parler. On parle beaucoup de la bande de Gaza ici quasiment tous les jours. Hein, on a lu des articles, notamment dans La Croix, sur la notion de génocide hier. On en parle quasi quotidiennement de la bande de Gaza, mais on ne parle pas assez de la Cisjordanie. Et de temps en temps, quelqu'un dans le chat me dit qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe en Cisjordanie. J'ai trouvé un article, page 18 dans le Figaro, qui nous en parle de la Cisjordanie. Merci le Figaro, voilà, qui n'est pas le seul journal à en parler, mais regardez, c'est ici. Voilà. En Cisjordanie, également, la violence croissante d'Israël. L'opération Mur de Fer démarrée en janvier se poursuit avec les conséquences sévères pour les habitants palestiniens. Parce que là aussi, il y a des exactions, notamment de la part des colons israéliens, et il y a des violences qui passent un peu au second plan, tellement c'est l'horreur à Gaza, mais je pense qu'il faut en parler également. Le quatrième dossier, alors dans le chat hier après-midi, vous m'avez dit « Oh Samuel, à demain, parce que là c'est en train de se tendre entre les anciens amis, les anciens alliés d'hier, Trump et Musk, et vous avez raison, et vous avez raison. » On va dans le Parisien maintenant, page 6. Regardez, ici... Et oui, il y a de l'eau dans le vin. Non, il y a du vin dans de l'eau. Il y a de l'eau dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz. Voilà. 100 mois, Trump aurait perdu. C'est toi, Nawal, qui disais ça hier. Alors que le milliardaire Elon Musk vient de quitter l'administration en place à Washington, l'intense alliance qui prédominait durant la campagne s'est spectaculairement fracassée ce jeudi soir. Mais oui, sortez les pop-corn, Popo Bergeau. Bien sûr, tu as raison. Bien sûr. Voilà. Donc on va se pencher là-dessus. Un couple en pleine rupture, une télé-réalité, me dit Popo Bergeau. Voilà. Bon, ils se sont aimés, ils ne s'aiment plus. Ils ne s'aiment plus. Voilà. Donc ça, c'est Trump-Musk. Je vous parlerai aussi de plein de choses. Oh oui, quand je rentre l'après-midi ou le soir chez moi, je lis Le Monde. Le Monde, c'est un journal de l'après-midi qui sort en début d'après-midi. Voilà. Moi, le matin, je vous lis Le Monde de la veille, puisque c'est un journal de l'après-midi. Et puis après, donc, quand je rentre chez moi, je lis Le Monde qui sort. Quoi. Et alors là, je tombe sur Ce Monde hier après-midi, et je lis un... Alors là, vous n'avez rien, parce que parfois Le Monde bug en termes de captation, mais c'est pas grave, ça. Merci Mademoiselle Nemboula pour le raid. Voilà. Tchou. Tchac. Bougez pas. Vous étiez sur quoi, Mademoiselle Nemboula? Je vous fais une petite capture, bougez pas. Et c'est page 6. Je vais vous montrer. C'est incroyable cette histoire. Est-ce que vous avez entendu parler du cadmium? Est-ce que vous avez entendu parler du cadmium? Du scandale sanitaire, écologique du cadmium? Moi, je connaissais pas ce truc. Kiné me dit oui. On voit plus la tablette. C'est normal. Je suis en train de faire une petite capture d'écran parce que parfois le monde est un petit peu capricieux dans la captation. Regardez. Je ne connaissais pas ça, moi. Le cadmium, une bombe sanitaire en France. Mais je suis tombé de ma chaise. Et pourtant, non, pas le bébé cadmium. Mais les enfants sont concernés, par contre. Ouais. Le cadmium dans les céréales du matin. Exactement, Lucas. Je suis tombé de ma chaise. Les médecins libéraux sonnent l'alarme sur la contamination massive des Français au cadmium. Un métal lourd classé cancérogène certain. Cette pollution est largement due à l'épandage d'engrais phosphatés en France importés du Maroc, parce que les engrais du Maroc sont très chargés en cadmium, qui s'accumulent durablement dans les sols. En plus, ça pollue pour des décennies, ce truc. Des fortes concentrations de cadmium se trouvent du coup dans les aliments les plus consommés, céréales, les petites céréales du matin pour les enfants, le pain, allez, les pâtes, les pommes de terre, donc les aliments de base, bim! Alors que ce métal lourd est associé à de nombreuses maladies, les enfants sont particulièrement affectés par la flambée des contaminations. Donc on a on a des, comment, on a des taux en fait de cadmium en France qui sont parmi les plus élevés au monde dans l'alimentation. C'est ce que je découvre par cet article. Bruxelles, les autorités sanitaires françaises veulent durcir la réglementation sur les engrais, mais le gouvernement n'agit pas. Alors là, si ça, c'est pas un scandale sanitaire, je ne sais pas ce que c'est un scandale sanitaire. Bon, merci Le Monde, moi j'ai appris un truc de fou, quoi. On lira ça. Ensuite, je vous emmènerai également en France, vite fait, voilà, avec Le Parisien. Là, on est page quoi ? On est page 4. Voilà. Dur à lire le paysage politique français. Hein, une époque, il y avait la gauche, il y avait la droite. Chaque camp préparait son champion ou sa championne. Enfin, c'est plutôt champion d'ailleurs jusqu'ici. On n'a pas eu de femme présidente. Hein. Et puis, c'était bon, à défaut d'être séduisant, c'était au moins lisible. Aujourd'hui, le paysage politique français, il est émietté. Voilà. Pourquoi pas moi ? Arte dans Le Parisien, présidentielle 2027. 2 ans après l'échéance, les prétendants, prétendantes à la course à l'Élysée sont de plus en plus nombreux. Voilà. Preuve de l'émiettement du paysage politique. Bah, comme en fait le paysage politique français n'est plus dominé par une ou deux forces, eh bien, ça crée plein d'ambitions en se disant « Mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Hein ? Voilà. Pourquoi pas moi, d'ailleurs ?» Pourquoi pas moi ? Moi ? Moi ? Moi ? Quand je dis moi, moi ? Pas moi vous, moi ? Pourquoi pas ? Voilà. Non, pas pourquoi moi ? Non, pas pourquoi ? Non, pas pourquoi moi que ? Non, 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 pourquoi pas moi que ? Non, moi, moi, pas moi que ? Non, non, faut pas déconner. Il va nous supprimer tous les jeux vidéo, lui. Alors, donc on parlera de ça. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a. Ah oui ! Bon, moi je suis pas trop au courant de ça parce que merci à ceux qui disent que vous voteriez pour moi parce que j'ai pas trop suivi ce sujet. Moi c'est la prime Rénov, hein. Eh bien elle a du plomb dans l'aile, nous dit Libération ce matin. La prime Rénov, regardez, peut-être que certains sont concernés, intéressés. C'est quelle page? C'est page 7. Non, attends, vendredi, où est-ce que c'est la prime Rénov? Où est-ce que je vous ai mis ça? Ce serait pas le Libé de la veille, ça? Je me serais pas gouré? Ah bah non, pourtant. Ou alors c'est pas dans Libé? Je suis bien capable. Ça se trouve, c'est pas dans Libé. Ah si! Parce qu'il y a un Libé spécial océan, et après il y a le Libé normal. Ah ouais, il y a 2 Libé pour le prix d'un. Voilà. Ma prime Rénov. Permis de déconstruire. Pointant des fraudes, Bercy a annoncé la suspension du dispositif d'aide à la rénovation thermique. Un recul environnemental supplémentaire, surtout motivé par des raisons budgétaires. Une annonce qui inquiète le secteur du bâtiment. Voilà. Bon, j'avoue, je ne connais pas trop, trop bien le sujet, mais Libé a l'air de dire que ce n'est pas une très, très bonne idée. On lira ça pour ceux que ça intéresse. Après Libé, on ira toujours en Libération. Ah oui, bon, on prendra des nouvelles de cette joueuse incroyable qui nous a fait rêver Roland Garros. Loïse Boisson, c'est terminé. J'étais tellement triste hier après-midi quand vous m'avez appris dans le chat. Hein. Donc elle s'est arrêtée en demi-finale, hein, contre l'américaine Coco Gauff. Coco Gauff. Donc on ira voir ça. C'est page 20. Non, c'est page. C'est par là. C'est par là. Elle est où ? Elle est où ? Elle est là. Voilà. Loïs Boisson, du rêve au revers. Voilà. Bon, elle devient quand même numéro 1 mondial, hein, français. C'est-à-dire, elle devient numéro 1 mondial française. L'ethnocentrisme du gars. Elle est première française, donc elle est première mondiale. Hein. La France, mesdames et messieurs. Hein. Le pays des Lumières. Hein. Le pays du cadmium. Ouais. Non, elle est numéro 1 française. Et elle est, merci MMG, 65e mondiale. Ce qui est incroyable. Voilà. Donc elle est très attendue maintenant. Voilà. On va se pencher sur ça. Elle nous a fait rêver. On aurait rêvé de la voir en finale, voire de la voir gagner. Ça aurait été incroyable. Mais bon, elle s'est arrêtée en demi. C'est déjà incroyable. Oui, j'ai vu cette vieille vidéo avec l'anglaise. Ouais, je t'inquiète. Ouais. Je l'ai vu traîner aussi sur TikTok, je sais plus où. Mais c'était pas Roland Garros, hein. Je pense que tu l'as vu. Et ici, c'est une chaîne d'actualité. Je veux le débat Samuel Etienne versus Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles. Un débat Samuel Etienne, Cyril Hanouna serait plus de gueule en vrai. Après Loïs Boisson, peut-être un peu de foot, non ? Ouais, bah oui, oui. Vite fait, vite fait. Vite fait. Page 20. Page 20 dans Le Parisien. Ouais. Vite fait, vite fait. Oh là là, ce match. Moi, je regardais avec mes enfants. On s'est arrêté à 2-0. Ils sont allés se coucher. Voilà. Et puis, puis après, grâce à vous, j'ai suivi. Hein, il y a eu quoi ? Il y a eu 5-1, et puis 5-2, et puis 5-3, et puis 5-4, et puis on s'est dit, voilà. Azenox, c'est quoi l'annonce ? Ah, que j'ouvre un OnlyFans. J'ouvre un OnlyFans. Attends, je vais vous faire un point d'exclamation annonce. Je vais vous faire un bot. Bah ouais, non, mais pour les ceux qui arrivent. Non, on fait un stream de fou au Louvre. On va jouer aux jeux vidéo au Louvre la semaine prochaine. Je vais vous faire une commande parce que c'est pas cool en vrai pour ceux qui arrivent. Hop. Point d'exclamation annonce. Par ailleurs, je lance mon OnlyFans, mais ça c'est autre chose. Annonce, et je vais vous mettre le tweet. Voilà. Annonce. On va jouer aux jeux vidéo. Comme ça, les modos et les autres, quand quelqu'un viendra dire « Ah, j'ai loupé l'annonce », vous pourrez lui dire « Point d'exclamation annonce ». Voilà, « Create ». C'est « Create » normalement. Si vous faites « Point d'exclamation ». Je suis tellement rapide, c'est moi qui étais le plus rapide. Voilà, normalement, vous l'avez. « C'est moi qui étais le plus rapide, comme quoi je suis pas si vieux que certains veulent dire. » Nanana. Voilà, ça marche. Voilà.
Célèbre musée au monde.
Nanana, tain, vous, hein, ils sont où les jeunes là? Ha ha! Ça rigole. Ouais, comme ça, on va le laisser épingler. Et comme ça, si quelqu'un a pas eu de l'annonce, il l'a quoi. Nanana. Super fier de moi sur ce coup là. Voilà, donc on parlera du foot là. C'est dommage, en plus, ils avaient bien commencé leur entame de match. Puis, petit problème en défense non, pour la France face à l'Espagne, non? C'est pas... Hein? Le foot, qu'est-ce qui reste? Bah, je crois que c'est tout, on finira avec ça. C'est pas mal, hein? Il y a de l'actu, hein? Vous en pensez quoi? Petite revue de presse de l'après-midi, là. Hein? Deux, trois petites choses, quand même. Je ne vois pas le lien pour OnlyFans par contre dans la commande. Ah ! C'est parce que c'est un lien qui se mérite. Mon compte OnlyFans ne s'offre pas comme ça au tout venant. Hein. Il faut le mériter. Il faut. Voilà, je ne vous dis pas comment. Mais. Oh, le changement de numéro de chaîne, on en a parlé hier, Dragon Wild. Ça va aller. Hein. Tu l'as en replay. La rue de presse d'hier. Merci Vavac pour le soutien. Voilà, tu l'as en replay, mon ami. Non, ça n'est pas pour l'exclamation fit. Non, ça n'est pas pour l'exclamation wikifit. Ça n'est pas pour tout le monde. C'est pour un public de connaisseurs. C'est pour les happy few. Tout le monde n'a pas accès comme ça à mon... Ouais. C'est pour les initiés, exactement. Exactement. Ça n'est pas pour l'exclamation nude. Ose Malakian, tu tapes pour l'exclamation annonce dans le chat et tu auras l'info. D'ailleurs, sinon, tu as le lien tout en haut. Bon, on commence avec... On y va ? Moi, je vous abandonne à 20h. Ça va, on a 2h ensemble sur l'actu. C'est cool, en vrai. Ça n'est pas pour l'exclamation fist. Erades. Quel rapport entre la bagarre fist et mon OnlyFans ? Ça n'a aucun sens. C'est très étrange. C'est pas un compte de MMA. C'est fou ça. Bon, alors on commence par quoi? La Une de l'Humanité sur la menace terroriste d'extrême droite en France. C'est cool ton humour, hein? Quoi? Quel humour? Mon Dieu, quoi? Je comprends rien. La menace extrême droite en France. La menace terroriste d'extrême droite. Ce qu'on appelle parfois l'ultra-droite aussi. L'assassinat raciste d'Hichem Mirawi à Puget sur Argens, dont on a longuement parlé hier sur cette chaîne, illustre une réalité identifiée par les services de renseignement. Les discours dans notre pays xénophobes, amplifiés par les réseaux sociaux, installent un climat en France de haine et de violence. J'ai un édito de Cédric Clairin, l'édito c'est un article où le journal List donne son avis, intitulé « L'aveuglement organisé ». Longtemps, le spectre de la menace islamiste a concentré l'attention des services. Mera, Charlie Hebdo, le Bataclan, sombre souvenir, l'histoire récente a imposé une hiérarchie de la peur où l'islamisme radical écrasait toutes les autres menaces. Mais dans l'ombre, un autre danger a mûri, épaissi jusqu'à prendre racine dans le paysage républicain, celui de l'extrême droite. Alors que les ministres successifs, avec une complaisance médiatique stupéfiante, agitent le spectre d'une ultra-gauche érigée au rang de principal danger politique du moment, c'est bien de l'autre côté du spectre que les morts se comptent. Les éco-terroristes, inventés par Gérald Darmanin, ou le danger des Black Blocs, brandis par Bruno Retailleau, ne sont que des écrans de fumée qui cachent mal leur complaisance. Pendant que les moyens ont été quasiment exclusivement mis sur la menace réelle, rappelle Luma, de l'islamisme, et que les contre-feux sont lancés pour affaiblir la gauche, merci Gressoir pour l'abonnement offert à Gabdag. Toujours du mal. Le danger du terrorisme d'extrême droite monte en puissance. Dans les services de renseignement, on le sait, on le dit depuis des années, mais le pouvoir fait mine de regarder ailleurs. Pourtant, ils alertent, repèrent des groupuscules armés, néo-nazis, obsédés par la guerre civile, rêvant d'un 18 brimaire racialiste. Des individus chauffés à blanc par l'omniprésence médiatique du RN et la parole publique nauséabonde libérée menace de passer à l'acte. Merci, j'ai perdu un pari pour ton soutien. La haine s'organise. Car c'est tout un archipel bien connecté, financé, internationalisé, souvent dopé aux récits russes de guerre civilisationnelle, que doivent surveiller des renseignements sans moyens. Comme le montre le drame de l'assassinat d'Hichem Mirawi, la droite si prompte à s'autoproclamer champion de la sécurité met en réalité les citoyens en danger. Aujourd'hui, les services n'ont plus de doute, l'extrême droite devient une menace prioritaire, mais à quoi sert un renseignement lucide si le pouvoir reste aveugle ? Et il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors, pour ceux qui ont... Certains me disaient « Ah, mais je suis pas au courant de cette affaire, on en a parlé très longuement hier. Ben, » L'Humanité rappelle les faits. C'était un peu après 22h, samedi dernier, à Puget-sur-Argens, dans le Var, Christophe B., donc le meurtrier, le terroriste, âgé de 53 ans, démarre son périple meurtrier. À bord de sa voiture, il emporte deux armes de poing semi-automatiques, deux armes d'épaule, quatre chargeurs garnis de munitions, plus de 1000 munitions. Quelques minutes plus tard, il croise un premier voisin, c'était son voisin, de nationalité tunisienne, un coiffeur de sa profession, Hichem Mirawi, sans sortir de son véhicule, il le tue en faisant feu à plusieurs reprises. Il reprend sa route à 22h26, crible la baie vitrée d'un logement de la résidence. Alerté par les détonations, deux des occupants sortent et suivent les tirs de Christophe B., l'un des deux Kurdes nés en Turquie, blessé à la main. Je crois que l'autre n'a pas été blessé. Le tireur est interpellé le lendemain. Il avait laissé une vidéo où il disait qu'il allait se rendre et qu'il allait se tirer une balle. Voilà, bon, finalement, il s'est laissé arrêter. Meurtre raciste. Bon, il a laissé plein de documents qui ne laissent aucun doute sur ses motivations. Il a eu, ces dernières années, plein de déclarations sur les réseaux sociaux. Meurtre raciste, pas seulement, attentat terroriste, selon le PNAT, le parquet national antiterroriste, qui s'est saisi de l'affaire. C'est la première fois, depuis sa création en 2019, que le PNAT ouvre une enquête pour un attentat d'extrême droite. Alors, des dossiers avaient déjà été ouverts depuis 2017, mais pour des actes préparatoires, et c'est la première fois que c'est sur un attentat. Attentat inédit, qui concrétise tristement les inquiétudes des services de renseignement français depuis plusieurs années. Pour ceux qui n'ont pas la DEF, l'ultra-droite, pour certains politologues et certains médias, l'ultra-droite, c'est l'extrême droite qui passe aux armes. C'est l'extrême droite qui est tentée par la violence, non pas par les élections, mais par la violence pour arriver à ses fins. C'est ça, l'ultra-droite. On peut être d'extrême droite et d'ultra-droite. Mais on n'est pas obligé d'être d'ultra-droite quand on est d'extrême droite. Par contre, quand on est d'ultra-droite, on est d'extrême droite. Tout le monde suit ? L'ultra-droite compterait entre 2000 et 3000 individus, dont 1300 fichés S. L'ultra-droite qui suit la même évolution que les mouvements terroristes islamistes. Ces dernières années, de nombreux groupes ont été démantelés dans notre pays. Régulièrement, on entend parler, Le risque, c'est qu'on se retrouve avec de plus en plus d'individus isolés qui passent à l'acte, dit-on du côté des services de renseignement. Aux États-Unis, et en Europe, on a eu plein d'affaires comme ça. Des attentats, vous vous rappelez du néo-nazi en Norvège, Anders Breivik, la fusillade de l'église de Charleston aux États-Unis, à Munich en Allemagne, Christchurch en Nouvelle-Zélande, vous vous rappelez, 2019, Hanau en Allemagne, 2020. Alors, je ne vous lis pas tout le dossier, je vous invite à le lire dans l'Humanité. Mais l'éditorial résumait bien la problématique. Hier, on s'est penché sur le fait que le meurtrier, le terroriste, votait Rassemblement National et qu'il repostait énormément de contenu du RN et que sa formation de conscience politique, il l'avait faite à l'aune, à la lumière des idées de ce parti, quoi. Le RN qui, pour certains de ses responsables, évidemment, s'est désolidarisé en disant « ça, c'est pas chez nous », bien sûr. Ça, on l'a lu hier. Voilà, vous avez les réactions de la population qui est sous le choc, bien sûr. Et ça, on en a parlé hier. Alors, les motifs du tueur, du terroriste, sont évidents. Hein. Comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, c'est depuis des années appelé à la violence et au racisme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit dans sa garde à vue? C'est intéressant. Bon, en langage courant, on dirait qu'il se dégonfle. Il reconnaît la matérialité des faits, donc il reconnaît avoir tiré, mais il conteste toute motivation raciste à ses actes, ainsi que toute intention terroriste, puisqu'il sait que ce sont des facteurs aggravants, bien sûr. Sur les réseaux, certains de ses amis en font déjà un martyr. Voilà. Et si vous voulez savoir plus un petit peu sur le profil du terroriste et de sa victime, bah, hier, on en a parlé très très longuement. Aussi. Je vous lis un petit peu. Oui, le forum raciste avec les membres du RN, Kiné, on en a parlé hier, mais tu ne devais pas être là hier. C'est vrai que c'est la compagne du terroriste qui l'a dénoncé auprès de la police. Voilà, pour ceux qui veulent avoir donc des précisions sur ce qui s'est passé, je vous invite à revoir le replay d'hier. Ça va, Nicolas Co? Une sombre histoire également, pardon, l'actualité est hélas... c'est aussi la chronique de ce qui ne va pas dans notre monde, dans notre société, dans notre pays. Et là, il y a une histoire qui est monstrueuse, dont le procès vient de s'ouvrir, c'est dans Le Parisien, un viol d'une fillette de 12 ans, une fillette, avec un motif antisémite. Je vous mène du Parisien. Le procès vient de s'ouvrir, ou va s'ouvrir. Voilà, c'est en une ici, le terrifiant récit d'un viol antisémite. Allons page 16 et 17. L'histoire est monstrueuse. J'invite les plus sensibles d'entre vous, notamment les plus jeunes, peut-être à s'éloigner de ce stream pendant quelques minutes. L'effroyable mécanique d'un viol antisémite. Alors pourquoi on en parle ici? On n'est pas tellement fait divers sur cette chaîne. Mais quand le fait divers dit quelque chose de notre société, quelque chose qui ne va pas, quelque chose dont il faut s'emparer pour que ça n'arrive plus, je pense qu'il faut en parler. Voilà. Le racisme existe dans notre pays, l'antisémitisme existe dans notre pays, hein, les discriminations contre les religions également, donc nous en parlons. Un an après le viol, en réunion d'une collégienne de 12 ans à Courbevoie, accusée par ses tortionnaires d'avoir caché sa religion juive et prétendu être musulmane, trois garçons de 13 et 14 ans sont jugés par le tribunal pour enfants mercredi. Anne, c'est un prénom qui a été inventé, n'avait que 12 ans lorsqu'elle a été séquestrée, insultée, humiliée, frappée et violée plusieurs fois en raison de sa religion juive. C'était à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, dans le quartier de la Défense, un samedi de juin 2024, quand l'école relâche son étreinte et flotte déjà un air de vacances. Survenu dans un contexte à l'époque de flambée d'actes antisémites, Ce drame avait choqué la France et percuté une actualité brûlante quelques jours après la dissolution. Un an plus tard, presque jour pour jour, ces trois agresseurs, désormais âgés de 13 et 14 ans, donc à l'époque donc de 12 et 13 ans, seront jugés à partir de mercredi prochain devant le tribunal pour enfants de Nanterre. Anne entend aussi être présente, donc la jeune fille, pour assister au procès, qui est un procès à huis clos, prévu sur 3 jours. L'occasion unique de démonter d'abord l'effroyable mécanique de ce viol antisémite et d'amorcer ensuite une reconstruction pour la victime, peut-être aussi pour ses jeunes tortionnaires. Ce 15 juin 2024, l'adolescente vient de passer un moment d'insouciance aux côtés de son petit copain avec lequel elle flirte depuis une semaine. Promenade main dans la main, lèche-vitrine, chaste baiser. Au moment de se quitter, il n'y a plus qu'un square à traverser avant de rejoindre l'appartement familial. Donc les deux amoureux se séparent. Voilà. Mais deux garçons barrent alors le chemin de la jeune fille. Le premier est un visage connu, c'est Thiago. Là encore un prénom qui est inventé. 12 ans, lui aussi. Son ex-amoureux rencontré en mars lors d'une manifestation sportive à Colombe. Il est accompagné d'un de ses copains de rue de ma maison, Dylan, 13 ans à l'époque, que Anne n'avait jamais croisé, donc il y a Thiago et Dylan. La caméra de surveillance de la ville enregistreront la scène, il est 18h, Thiago hausse tout de suite le ton, il exige de son ex, c'est l'ancien petit ami de la jeune fille, l'identité de son nouveau chéri. Puis il la gifle, lui serre le bras, et finit par obtenir le nom. Mais sa rancœur dépasse la simple jalousie, il lui reproche maintenant d'avoir menti sur sa religion. Lui s'est converti à l'islam quelques mois plus tôt, Anne, elle, n'a pas osé lui dire qu'elle était juive et a prétendu qu'elle était musulmane. Découvert quelques semaines plus tard, ce mensonge a précipité la fin de leur relation, Thiago s'estime trahi et rumine sa vengeance. À 18h02, un troisième garçon les rejoint. Donc vous avez Dylan, Thiago et maintenant Ryan, 13 ans. Ado fugueur placé dans un foyer, une connaissance des deux autres garçons. La jeune fille est poussée par le trio vers les locaux voisins d'une crèche désaffectée. Anne est d'abord traitée par les trois garçons de sales juives de merde, avant d'être sommée de s'expliquer sur son soutien supposé à Israël, petite fille de 12 ans, dans la guerre qu'il oppose depuis les attaques du 7 octobre 2023 aux terroristes du Hamas. Apeurée, la jeune fille explique qu'avant de soutenir un camp plutôt qu'un autre, elle est d'abord pour la paix. Cette idée n'a pas l'air de convaincre ses interlocuteurs. Pour l'intimider un peu plus, l'un d'entre eux allume un briquet et approche la flamme de son visage. Anne se défend. « Je n'ai jamais parlé mal des musulmans de la Palestine. La seule chose que j'ai pu dire, c'est que ce n'était pas un génocide. » glissera-t-elle aux enquêteurs. La violence monte ensuite de plusieurs crans. Anne est frappée au visage, à la poitrine et dans les jambes. Elle tombe à terre. Thiago lui touche les seins, lui impose de se mettre à genoux, puis colle sa tête contre son pantalon et esquisse un simulacre de fellation. Avant de lui susurrer de manière toujours plus inquiétante, tu kiffes quand je suis comme ça devant toi. Les paroles deviennent terrorisantes, la séquestration dégénère totalement. Si je veux te violer, je le ferai, c'est nous qui décidons ce que nous allons faire de toi, menace Dylan, selon les propos rapportés par la victime. Puis Ryan est le premier à passer à l'acte. Il impose à Anne une pénétration digitale. Dylan contraint ensuite l'adolescente à se déshabiller. Éloignez-vous les plus sensibles et les plus jeunes. Et à se mettre à quatre pattes, il l'aurait alors soumise à plusieurs viols successifs dans un long supplice aux confins de l'horreur. Étayée par les déclarations précises et constantes de la victime, confirmées par des expertises gynécologiques et des tests génétiques, l'existence de ces viols reste contestée par Dylan. Anne tente d'implorer l'aide de Thiago, son ancien petit ami, mais celui-ci n'aurait pas esquissé le moindre geste, sinon pour filmer certains moments de son calvaire. Et envoyer une vidéo au nouvel amoureux d'Anne, accompagné de quelques mots « Hey, regarde, c'est ta meuf ». D'autres vidéos tournées par les autres protagonistes circuleront sur les réseaux les jours suivants. Ce huis clos infernal s'achève par une ultime séquence d'humiliation et d'intimidation. Anne est forcée à manger des bouts de papier brûlés, puis extorquée et menacée de mort. Ses tortionnaires lui demandent de revenir le lendemain matin leur verser plusieurs centaines d'euros avec interdiction de dénoncer ce qu'elle vient de subir, sous peine de représailles contre elle et contre sa famille. Voilà. Ce qu'on vient de faire, c'est 1% de ce qu'on est capable de faire, disent les trois garçons. Donc tu ferais mieux de ne pas aller voir la police, lui précise l'un des deux violeurs présumés. Thiago, juste avant de relâcher la jeune fille, lui ordonne de se convertir à l'islam et lui demande de répéter une profession de foi. Il est 18h58, la séquestration de la jeune fille aura duré 54 minutes. Son père la retrouve quelques minutes plus tard, recroquevillée dans le hall de leur immeuble, en état de choc. Elle réussit à passer outre les menaces de ses bourreaux et raconte une grande partie des sévices qu'elle a subis. L'adolescente trouvera encore la force de préciser aux policiers ce que chacun des trois garçons lui aurait infligé. Elle expliquera aussi avoir été récemment victime dans son collège de Courbevoie de harcèlement en lien avec sa religion, hein, puisqu'elle est juive. Marquée par ses antécédents et pour éviter un problème avec Thiago, c'est là qu'elle aurait prétendu être musulmane. Anne précise que celui-ci n'a jamais tenu devant elle de propos antisémites quand ils étaient ensemble. Bon, je vous passe la suite de l'article. Vous avez lu l'essentiel. Un mot du parcours des trois enfants. Des trois enfants. C'est des enfants, c'est des ados. Là. Bref. En décrochage scolaire en classe de 5e, Thiago apparaît lui-même comme victime d'une agression sexuelle subie au collège un an plus tôt. Selon sa famille, il se serait transformé à la même époque en garçon menteur, violent, colérique, dans le rejet de l'autorité maternelle. Ça, c'est Thiago. Les deux autres en cause semblent eux aussi avoir suivi des parcours chaotiques en marge de cellules familiales éclatées par des épisodes de violence. L'importance de l'éducation. Et de l'amour dont vous entourez un enfant. Vous savez que parfois on se moque de moi quand je parle beaucoup d'éducation et que j'explique que la violence psychologique et physique n'est jamais, en capital J-A-M-I-S, jamais une solution pour élever un enfant. Voilà. Et là on voit que ces trois garçons-là, manifestement, ont eu des parcours éducatifs marqués par des violences. Ryan aurait été l'objet de brimades d'un de ses parents pendant plusieurs années. Dylan aurait subi à 5 ans des agressions sexuelles commises par son père. Voilà. Bon, je voulais vous parler de cette affaire parce qu'elle me semble, elle me semble le reflet, hélas, alors deux tensions qui traversent notre société. Hein. Voilà. Les tensions racistes, les tensions antisémites, les tensions liées à quelques discriminations que ce soit, ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des idées, ce ne sont pas que des débats à la télé, ce ne sont pas que des posts sur les réseaux, ce ne sont pas que des gens qui ragent ou que sais-je, ça influe notre quotidien et ça crée des monstruosités comme celle-ci, quoi. Voilà. Oui, exactement. C'est pour ça que je vous en parle. C'est dit. Là, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. C'est exactement. Je ne vous parle des faits divers que quand ils sont faits de société, quand ils disent quelque chose de la société dans laquelle on vit. Exactement. Quand vous entendez dans votre quotidien et parfois dans votre entourage hein, des propos discriminants, des propos racistes, antisémites ou discriminants d'une quelconque manière que ce soit, pensez que ces mots ont parfois des conséquences et se transforment parfois en actes. Voilà pourquoi je vous parlais de ce procès. Je vous tiendrai au courant du jugement qui interviendra après le procès. Je pense que le jugement sera mis en délibéré. Pardon, hein, ce sont des histoires sombres, mais je devais vous en parler. Alors on parle de Gaza ici, quasiment tous les jours, quasiment à chaque revue de presse. Mais on parle moins de la Cisjordanie où il se passe des choses aussi importantes, mais qui passent un peu au second plan, hélas. Et merci au Figaro qui ce matin nous en parlait, je crois, c'est le Figaro, oui, page 18, ici. En Cisjordanie, parce que ce qui se passe à Gaza est documenté, nous en parlons, également... de la violence la violence croissante d'Israël. L'opération Mur de Fer, c'est son nom, démarrée en janvier, se poursuit avec des conséquences sévères pour les habitants palestiniens de la Cisjordanie. La parole à un Palestinien de Cisjordanie, dans un café, rencontré peut-être par l'envoyé spécial du Figaro. Ouais, c'est ça, l'envoyé spécial à Tulkarem de Guillaume de Dieu le veut. Salam Marai écrase sa cigarette en soupirant. C'est catastrophique. Le taux de chômage a explosé. On est à plus de 60%. Conséquence de la guerre menée par Tsahal dans la bande de Gaza, des milliers de Palestiniens n'ont plus le droit d'aller travailler en Israël où les salaires sont meilleurs. Dans le gouvernorat de Tulkarem, les achats ont baissé de 80%. Lancée le 21 janvier par l'armée israélienne, l'opération Mur de Fer a pour objectif d'anéantir la menace terroriste provenant de ces bastions de la résistance à l'occupation israélienne, y compris en Cisjordanie. Ceux de Tulkarem et de Jenin ont été investis par l'armée qui en a chassé tous les habitants. Quelques 33 000 personnes sont déplacées et ne peuvent pas rentrer chez elles. L'armée occupe toujours les lieux. Le Figaro nous rappelle le statut de la Cisjordanie, territoire militairement occupé par Israël depuis 1967. Le droit international y interdit l'installation de civils. Actuellement, pourtant, 500 000 Israéliens vivent en, comme disent les colons, Judée et Samarie. Hein ? Le nom biblique donné en Israël à la Cisjordanie. Leur nombre augmente d'année en année. Cette colonisation, elle est totalement illégale, vous le savez. Le nombre augmente d'année en année. Il a doublé en 20 ans, accompagnant l'extension des colonies. Il y en a 365. Colonies totalement illégales au regard du droit international et tolérées par l'actuel gouvernement. Tolérées, encouragées par l'actuel gouvernement israélien. Voilà. Le gouvernement israélien vient d'autoriser d'ailleurs la création de 22 nouvelles implantations. Fort du soutien de la coalition au pouvoir, les colons les plus radicaux exercent une violence quotidienne contre les Palestiniens de Cisjordanie avec une quasi-impunité. Côté palestinien, la résistance à l'occupation fait de nouvelles recrues. Elles sont durement combattues par l'armée israélienne. 616 morts, 4512 blessés depuis le début de l'année en Cisjordanie. Merci, Siyarouki. Donc la résistance à l'occupation fait de nouvelles recrues, explique le Figaro. La répression israélienne est forte, mais le Hamas, parce que je crois que c'est le Hamas qui a revendiqué cet acte, frappe encore. Attaque perpétrée mi-mai contre une mère de famille israélienne, âgée de 30 ans, que son mari conduisait à la maternité pour qu'elle donne naissance à leur quatrième enfant. Elle a été tuée, le bébé est mort quelques jours plus tard. La Cisjordanie risque-t-elle de devenir une zone de non-droit où domine la loi du plus fort? La France ne cache pas son inquiétude. Nous appelons les autorités israéliennes à mettre immédiatement un terme à leur politique d'expansion continue des colonies, à la confiscation de terres, au transfert forcé des Palestiniens et à prendre des mesures contre la violence des colons. La perspective d'une conférence sur la Palestine, dont on a parlé ici, prévue mi-juin à New York sous le patronage de la France et de l'Arabie Saoudite, irrite au plus haut point les autorités israéliennes. Elle a pour objectif de poser les fondements d'un État palestinien viable. Hein ? Est-ce que la France s'apprête à reconnaître l'État palestinien ? Ça, on le saura dans les prochains jours. Je vous lis. Je pense que Soufiane, tu peux faire mieux que ça. Merci Matty Crazy Pumpkin, comment vas-tu? Parce qu'en fait, je sais Soufiane.
Je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais ma réflexion sur ce sujet depuis une trentaine d'années que je m'interroge sur ce qui se passe au Proche-Orient m'a conduit à cette conclusion que les habitués connaissent. Les parties au conflit, palestiniens et israéliens, se sont montrés incapables ces dernières décennies de créer un environnement de paix. Voilà. Et malgré les efforts de certains, puisque côté israélien comme côté palestinien, il y a eu des partisans de la paix. Voilà. La seule solution aujourd'hui pour amener la paix dans la région ne peut venir que de la communauté internationale. D'une pression suffisante sur les acteurs au conflit, aujourd'hui singulièrement le gouvernement d'Israël et l'État hébreu, pour que l'État palestinien soit enfin reconnu, que deux pays, la Palestine et Israël, la Palestine n'existe pas en tant que pays aujourd'hui, et en tant qu'État, que deux pays, Israël et la Palestine, vivent, alors sinon en bonne entente, au moins en paix, hein, c'est-à-dire en arrêtant la guerre, il y aura de la défiance, il y aura de la haine, tout ce que vous voulez, mais chacun de son côté dans un premier temps, et sous la surveillance de la communauté internationale. On n'a pas parlé du conflit Musk-Trump au Micar, c'est dans un instant. Tu arrives pile poil. Salut, Mousseline la sérieuse. Donc, quelqu'un se moquait de l'initiative du président Macron, là, en mode politique, en disant « Ah oui, mais de toute façon, il ne pense qu'à ses propres intérêts. » Salut Nicolas, tu vas bien. Quelles que soient les arrière-pensées politiques des uns et des autres, la reconnaissance par un pays comme la France de l'État palestinien, après d'autres pays européens, serait une avancée. Ne suffirait évidemment pas, c'est rien. Mais serait une avancée vers cette reconnaissance qui est la condition non suffisante, mais sine qua non, du règlement du sujet. Voilà. On aura l'occasion d'en parler, de toute façon on en parle tous les jours. Quelqu'un m'interrogeait sur le conflit Musk-Trump. Bien vu, je crois qu'on va en parler tout de suite. C'est dans le Parisien, cette fois. Voilà. Les deux meilleurs amis du monde sont en train de devenir les pires ennemis. Mais incroyable, c'est fou ça. Voilà. Peut-être parce que chacun ne poursuit que son propre terrain d'ailleurs. C'est la bagarre. Juju on the moon, sortez les popcorn. Si vous avez des popcorn chez vous, sortez-les. C'est le moment ou jamais. C'est vraiment la séquence cinéma. Alors que le milliardaire Elon Musk vient de quitter l'administration en place à Washington, l'intense alliance qui prédominait durant la campagne s'est spectaculairement fracassée. Ce jeudi soir, je vois que les popcorns sont sortis. J'adore. Un couple en pleine rupture. Aïe, 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 aïe. En direct devant les caméras et sur Internet, Donald Trump et Elon Musk ont publiquement étalé leur divergence ce jeudi. Voilà, les déclarations interposées devenant de plus en plus violentes au fil de la soirée. Peut-être sur les réseaux, parce que les deux sont un petit peu accros. Oui, j'ai divergence, oui. Je sais. Le point de non-retour semble atteint. Le président américain a lancé des hostilités aux alentours de 18h en pleine réunion dans le bureau ovale avec le chancelier allemand Friedrich Merz, réduit au rôle de figurant muet. Le président Trump n'a qu'assez peu de considération pour les autres chefs d'État. Elon et moi avions une bonne relation, je ne sais pas si c'est encore le cas, lance-t-il à propos de son ancien conseiller spécial. Qui a quitté, rappelons-le, Musk, sa mission de réduction des dépenses publiques qu'il menait à la Maison-Blanche. Et qui n'a pas réussi à mener, sauf qu'il a réussi quand même à sabrer dans des programmes très importants et qui ont tout déstabilisé. Sur son réseau social X, l'entrepreneur hyperactif, c'est marrant parce que chacun a un réseau social. Parce que Trump, il a son propre réseau social aussi. C'est comment ça s'appelait ? Truth Social, c'est ça ? Sur son réseau social X, l'entrepreneur hyperactif réplique instantanément « N'importe quoi !» Le niveau. Il a répondu « N'importe quoi !» écrit Elon Musk. En commentaire d'une vidéo de Donald Trump affirmant déjà que sa colère était due à la perte de subventions pour les véhicules électriques. Faux ! Faux ! C'est faux ! On va apprendre que le prochain tweet d'Elon Musk, c'est celui qui dit qui est. Ah, oh, vous m'avez préchoté la blague. Voilà. Ou même pas vrai. Voire, hein, je vais le dire à ma mère. Le niveau est abyssal. N'importe quoi, faux, poste-t-il ensuite au-dessus d'un extrait dans lequel le président américain assure que l'entrepreneur connaissait par avance le contenu du texte. Voilà. Toujours devant le chancelier allemand qui se demande ce qu'il fout là, Trump aiguise ses couteaux pour piquer son ex-allié. Il disait les choses les plus belles à mon propos, rappelle-t-il, et poursuivre cynique. Les gens quittent notre gouvernement, ils nous aiment et à certains moments cela leur manque tellement et certains d'entre eux deviennent hostiles. Le multimilliardaire qui a aidé à financer la campagne républicaine en 2024 affirme que Trump aurait perdu sans lui et l'accuse d'ingratitude. Au même moment, l'action de Tesla chute à la bourse de New York. Voilà, 14% de baisse hier. Les deux belligérants continuent de s'adresser des coups. Oui, c'est vrai, tu as raison, papy pantoufle. Sortir le popcorn, pff, désolé, mais ne vous réjouissez pas trop vite, ils sont capables de se rabibocher en un claquement de doigts, malheureusement, tellement leur comportement est erratique. Ça n'est pas faux. Oh, on en a parlé, Mathieu, mais il y a longtemps, en début de semaine, de ça. Mais bien sûr, tu l'as en replay. Vous savez, le coup de l'armée ukrainienne avec les drones contre les bombardiers russes, là. Les deux belligérants continuent de s'adresser des coups sur son réseau Truth Social. Le locataire de la Maison Blanche assure que Musk est devenu fou. Quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? Mais Musk serait fou ? À cause d'une décision favorable aux véhicules électriques. Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux, menace-t-il. Pas déstabilisé, Musk contre-attaque violemment. C'est l'heure de lâcher une grosse bombe, dit-il. Donald Trump apparaît dans les... What ?
Oh, les dingues !
Donald Trump a affirmé, Musk, je l'avais pas vu, apparaît dans les dossiers Epstein. C'est plus des sauts de pop-corn qu'il va nous falloir. C'est des brouettes. C'est des baignoires de pop-corn. C'est la véritable raison pour laquelle ces derniers n'ont pas été rendus publics. Assène le patron de X. La référence à l'affaire pédocriminelle de Jeffrey Epstein qui fait encore grimper la tension. Tu m'étonnes. Incroyable. Alors, l'origine de la rupture, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le projet de budget du président Trump hein, qui prévoit des dépenses, hein, de relance type keynésien. Je ne suis pas penché précisément dessus, mais un budget avec trop de dépenses de la vie de Musk, et ça l'a mis en colère. Voilà. L'idylle a longtemps semblé parfaite. Donald Trump n'a eu de cesse de défendre son allié face aux critiques sur les méthodes brutales du Doge, cette mission d'austérité budgétaire que le patron de Tesla dirigeait. Voilà. Mais les fissures ont fini par apparaître jusqu'à la rupture définitive. Le milliardaire ne compte visiblement pas quitter la politique. Il a demandé sur X s'il n'était pas temps de créer un nouveau parti aux États-Unis. Oh ah oui, attends. C'est ça qui est fou. On pensait qu'on ne pouvait avoir pire que Trump en président des États-Unis, mais imaginez Musk. On n'avait pas pensé à ça. Bah lui, si. Il veut créer un parti. C'est popcorn sur popcorn sur popcorn. Soufiane. Il peut pas se présenter. T'as peut-être raison. T'as peut-être raison à cause de ses multiples nationalités. Je sais pas. Hein, c'est qu'il y a du Canada, il y a de l'Afrique du Sud, il y a plein de choses. Ouais. Tu as raison. Schwarzenegger n'avait pas pu se présenter pour ça en raison de ses origines autrichiennes, si je dis pas de bêtises. Voilà. C'est ça, il peut pas. Vous avez raison. C'est fou quand même. Bon ben voilà, a priori c'est fini. Incroyable. Je regarde un petit peu le tennis, on va en parler du tennis bien sûr. Alors, de quoi ai-je prévu de vous parler ce matin aussi ? Oh, du cadmium. Alors là, je vous le disais tout à l'heure, je suis tombé de ma chaise. Cette histoire est... Le Monde, 2 points. Samuel Etienne annonce sa candidature pour la présidence des États-Unis en direct du Louvre. Imaginez. Le fou du bus. J'ai dit ce matin, j'ai l'habitude, j'ai envie de presser le matin d'habitude. le fou du bus. Imaginez. Non content d'annoncer ma candidature à la prochaine présidentielle en France, j'annonce parallèlement, en même temps, je veux dire, l'annonce de ma candidature à la présidence des États-Unis. Et de la Norvège. Il y a un président en Norvège, pas sûr. Hein ? Faut être américain, du coup. Oui, mais c'est le fou du bus. Ouais. Du paf au prout à l'Élysée, exactement qui naît. Incroyable, ça. Alors, j'en étais où ? J'en étais à... Ah oui, cette histoire de cadmium. Attends, c'est incroyable. Alors ça, je suis tombé. C'est simple, j'ai failli me casser le coccyx. Hier soir, heureusement que j'étais assis pas trop haut à la maison quand j'ai vu ce truc-là. Le cadmium. Attends, regarde. C'est la une du Monde. Le cadmium, une bombe sanitaire en France. Mais c'est surréaliste ce truc. Certains en avaient entendu parler. Les aliments les plus consommés, pâtes, céréales, pommes de terre, pain, chez nous, sont contaminés par un cancérogène présent dans les engrais phosphatés. Il ne s'agit ni d'un pesticide, ni d'un polluant éternel. Pourtant, il contamine massivement les Français, en particulier les enfants, à travers notre alimentation. Au point que des médecins libéraux en France ont décidé de tirer la sonnette d'alarme sur ce qu'ils considèrent comme une bombe sanitaire, le cadmium, C-A-D-M-I-U-M. Moi, en train de manger mes pâtes actuellement. Arrête ! Arrête tout de suite ! Moins connu que le plomb, le mercure ou l'arsenic, le cadmium est un métal lourd classé cancérogène, certain pour l'homme. Présent dans les engrais phosphatés utilisés en agriculture, c'est dans les engrais, il s'accumule dans les sols et a contaminé les aliments les plus consommés, les céréales du petit déjeuner, le pain, les pâtes ou les pommes de terre. Dans un courrier adressé début juin au Premier ministre et au ministre de la Santé, de la Culture et de la Transition écologique, la Conférence nationale des unions régionales des professionnels de santé médecins libéraux, bon, les médecins libéraux quoi, fait part de sa grande inquiétude. L'exposition au cadmium est une bombe sanitaire, disent-ils. Il y a une urgence. Il est de notre devoir d'interpeller la puissance publique afin de protéger les citoyens. L'État ne peut plus ignorer ce fléau de santé publique. Plus de 16 000 articles scientifiques documentent les effets délétères du cadmium qui se fixe sur les os, s'accumule dans les reins et le foie, associé à des maladies osseuses comme l'ostéoporose, les néphropathies, les troubles de la reproduction, un risque accru de cancer, let's go, reins, poumons, prostate, sein, un cancer inquiète particulièrement la communauté médicale, le cancer du pancréas. Depuis 2021, Santé publique France alerte sur le lien entre le cadmium et l'explosion des cancers du pancréas chez nous, parce que vous allez voir, c'est très français cette histoire. Le cadmium est donc suspecté de jouer un rôle dans l'accroissement majeur et extrêmement préoccupant de son incidence. Le nombre de cas de cancer du pancréas a plus que quadruplé en 30 ans. Et les deux tiers ne sont pas liés au vieillissement de la population. Le cancer du pancréas sera le deuxième plus mortel dans les années 2030-2040. La France est le quatrième pays au monde ayant le plus grand nombre d'apparitions de nouveaux cas. Nous avons un problème. Merci Tifuma, merci Cruzl, merci du soutien. Et ça augmente aussi les risques cardiovasculaires. Les médecins pointent également une explosion de la contamination des jeunes enfants par rapport à leur alimentation, céréales, pain, dérivés, pommes de terre. Flambée chez les enfants âgés de 6 à 10 ans notamment. Waouh. Recommandation, tiens, on rentre dans le concret. De Pierre Souvet. Il faut arrêter de donner les céréales à gogo au petit déjeuner aux enfants. Qu'est-ce qu'on mange ? Mais qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange, les gars ? Des cailloux, comme dit Popo Bergeot ? La dose journalière tolérable en France est 3,5 fois plus élevée que la dose maximale recommandée aux États-Unis. L'imprégnation moyenne des Français est 3 fois supérieure à celle des Américains. Plus de 2 fois supérieure à celle des Italiens. Pourtant, ils en mangent des pâtes. Ils en mangent des pâtes. Sauf que dans leurs pâtes, ils n'ont pas de cadmium. Les jeunes Français des 6-10 ans sont 5 fois plus contaminés que les jeunes Américains. 6 fois plus que les jeunes Allemands. 15 fois plus que les petits Danois. Hein. Alors pourquoi il y a un fait français ? Alors ça, pour gagner contre les Espagnols en demi-finale hier soir, il n'y a personne. Mais pour battre tout le monde sur le cadmium, alors là, il y a du monde. Pardon ! À un moment, il faut en parler. Ouvrons le débat. Hein ? Bon. Ça... Alors comment expliquer cette exception française ? Cette contamination est très largement imputée à l'épandage d'engrais phosphatés contenant trop de cadmium. La teneur en cadmium dans les engrais français est très nettement plus élevée que la moyenne européenne. C'est les engrais. C'est nos habitudes alimentaires, dit Walden Wood. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, c'est les engrais. C'est nos engrais. Voilà. On a des engrais qui sont beaucoup plus chargés en cadmium que les autres. Le cadmium est contenu dans les roches phosphatées utilisées pour fabriquer les engrais. Or, l'agriculture française, premier consommateur d'engrais en Europe, s'approvisionne pour les apports en phosphore au Maroc. Le pays possède les plus grandes réserves minières en phosphate du monde, mais ces roches affichent des teneurs en cadmium très élevées. Voilà, c'est à cause des mines marocaines. La Commission européenne estime que c'est un risque inacceptable pour l'homme et l'environnement, a donc demandé de durcir la réglementation en introduisant une limite pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés. Voilà. Mais le gouvernement français, il dit non. Mais non, c'est Armix, je suis marocain, c'est ma faute. Pas du tout, mon ami. Toi, en tant que citoyen, non. Et le gouvernement a dit non. Voilà. Il y avait un projet d'arrêté, mais il n'a pas été publié. Voilà. Le ministère de la Santé a été contacté par le journal Le Monde, qui a renvoyé sur le ministère de l'Agriculture. Voilà. Qui n'a pas répondu. Voilà. Alors, il faudrait abaisser le seuil. Hein. Voilà. Mais ça ne suffira pas. L'ANSES précise qu'il faudra des dizaines d'années pour que les niveaux de contamination des sols commencent à baisser. C'est très, très lent. Voilà. Il a été calculé que si on baissait le taux, là, eh bien, la baisse du cadmium dans les sols français serait seulement de 3,8% d'ici à 100 ans. Le truc s'en va très lentement. Quel bordel. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bon ben, manger moins de céréales pour les enfants le matin. Les médecins libéraux demandent au gouvernement de soutenir très fermement l'alimentation biologique, en particulier dans les cantines scolaires. Une étude, une méta-analyse publiée dans le British Journal of Nutrition montre que les aliments biologiques présentent en moyenne 48% de cadmium en moins que les aliments issus de l'agriculture conventionnelle. Incroyable. Quel scandale. C'est fou. J'ai mangé des céréales toute mon enfance. Ouais. Bah oui, mais t'es plein de cadmium. C'est fou, hein. C'est fou. Moi, je connaissais pas cette histoire-là. Alors, Popo Bergeau et d'autres, vous n'avez pas bien écouté. C'est super étrange, le sol reste pollué pendant 100 ans et le bio, c'est mieux. Oui, parce qu'en fait, c'est surtout les engrais que tu mets par-dessus. Alors, la dépollution du sol prendra du temps. Mais sur un sol potentiellement déjà pollué, si tu rajoutes au quotidien des engrais chargés en cadmium, c'est ça l'enfer. C'est tout l'engrais que tu mets dessus, quoi. Capiche ? Le cadmium, il y en a pour le lait, c'est bon pour les os. Non, c'est le calcium tout flambissin. Tu veux que je t'explique la bouteille de lait ? Quel enfer. C'est bien, je vais toujours avec mon petit lot de bonnes nouvelles, moi. Du coup, ça s'inquiète dans le chat. Chris Planner, cet article m'a traumatisé. Hier matin, l'eau au robinet, ça va pas. L'eau en bouteille, ça va pas. Les pâtes, ça va pas. Le thon, ça va pas. Les épinards, ça va pas. Comment ne pas tuer son gauche challenge quand tu fais les courses? Moi, je donne que du kebab. Moi, c'est kebab matin, midi et soir. Vous me direz, ça manque un peu de diversité. Eh ben, faut changer les sauces. Le matin, c'est sauce blanche. On commence en douceur. Le midi, c'est ketchup mayo. Et le soir, c'est algérienne. Biggie algérienne, pour mettre un peu de douceur, parce que l'algérienne, ça pique un peu. Voilà. Là, t'as tout, là. C'est équilibré, t'as tout ce qu'il faut. Kebab, pain fait avec des céréales cadmium. Ah ben, ils vont manger que la viande et les frites. Biggie algérienne, choix de roi. C'est Tommy qui m'a dit. Il m'a dit, Sam, dans ton kebab, c'est pas mayo, c'est pas je sais pas quoi, c'est pas Biggie, c'est pas algérienne, c'est Biggie algérienne. C'est quand la douceur de la sauce Biggie vient amoureusement enlacer de ses petits bras le petit côté piquant de la sauce algérienne. Voilà. Bien sûr, Little Tinette qu'on va streamer ce soir. Ah non, pas Samouraï. Hein, il m'a dit Biggie algérien. Alors qu'algérienne tout seul, il y a deux algériennes. Tommy, il m'a expliqué, fais gaffe Sam, il y a deux algériennes. Il y a une algérienne avec des petits points rouges qui piquent. Et il y en a une deuxième qui n'a pas les points rouges, qui pique moins. Voilà. Mais il fait attention Samuel. Il me dit, prends pas celle qui pique là. Il me dit, c'est trop. J'aime trop Tommy. Qu'est-ce qu'on a après? Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles un peu dans l'actu, là, des fois, où on va tous mourir, là? Parlons de la présidentielle. Let's go! Ta voix berce mon fils, en tout cas. Ça va que la machine. Sinon, j'en mange beurre. J'ai mangé ça ce midi. Toujours pas de sucre, hein. Summer body, hein, j'ai arrêté le sucre. Alors, tout le monde veut présenter la présidentielle. Papa, présidentielle. C'est dans le Parisien. C'est quoi? Page quoi? Page 4. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Tout le monde veut se présenter. Voilà. Présidentielle 2027. 2 ans avant l'échéance. Coca zéro. Les prétendants dans la course à l'Élysée sont de plus en plus nombreux. Preuve de l'émiettement du paysage politique. Pourquoi pas moi? Non, pas moi. Pourquoi pas moi? Il suffit d'écouter les interviews matinales de ce jeudi pour s'en convaincre, c'est déjà l'embellement en vue de 2027. 7h49 sur RTL, l'ancienne première ministre Elisabeth Borne. Là, je ne vois pas pourquoi j'exclurais de me présenter Elisabeth Borne. Quand je vois aujourd'hui que chacun est candidat à la présidentielle. Putain, je ne l'avais pas vu venir, ça. 8h41, France Inter, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Bon, lui, on sait. On sait depuis longtemps, lui. Voilà. Confie qu'il continue de se préparer pour cette élection, qu'il bosse. Au même moment, sur BFM, Manuel Valls et l'invité d'Apolline de Malherbe. Le ministre des Outre-mer veut revenir dans le jeu. Voilà. Le 23 mai, dans nos colonnes, il expliquait déjà qu'il ne pouvait pas se désintéresser de 2027. Si, tu peux, en fait, si tu veux. Si, tu peux. Il dit, je peux pas. S'il veut. C'est une question de volonté. Il dit, je peux pas me désintéresser. Si, tu peux. Bah, t'es pas obligé. Qui t'oblige? Hein? Bon. C'est peut-être qu'il veut pas, peut-être. Ah. Ce n'est plus une campagne, ce n'est plus une pré-campagne présidentielle, c'est un épisode des bronzés, dit un député du groupe Liotte. Certains vont à la présidentielle en suivant le conseil de Jean-Claude Duss comme pour un rendez-vous galant. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Putain, faut qu'on se refasse cette scène-là. Obligé.
Ah, je l'ai. Coup de Bernard.
Coup de Bernard. Oh, le culte. Oh, le bonheur.
Coup de Bernard. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Coup de Bernard.
On s'en lassera jamais. C'est le surtout toi, il est incroyable.
Le surtout toi.
Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi.
Et la tête de Junio après.
Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
J'adore cette philosophie. Ça traverse les temps, ça traverse le temps. Donc, ce député dit, les candidats à la présidentielle en France, c'est un peu pareil, quoi. Oublie que t'as aucune chance, fonce, quoi. À moins de 2 ans de la présidentielle, la liste des prétendants s'allonge. Donc on a parlé d'Elisabeth Borne, on a parlé de Manuel Valls, on a parlé de Xavier Bertrand. Édouard Philippe, il a prévenu qu'il serait candidat jusqu'au bout, nous rappelle le Parisien. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, a envie de briguer la fonction suprême. Il a même fondé son propre mouvement. Bruno Retailleau a promis aux adhérents de la République qu'il serait le premier artisan de notre victoire en 2027. Gabriel Attal, Laurent Wauquiez, le maire de Cannes, David Lisnard. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, voilà. La ministre chargée d'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, hein, qui reconnaît quand même, on est potentiellement nombreux hein, sur la ligne de départ. Ouais. Si nombreux que chacun publie un livre pour sortir du lot, bon, personne ne lit ses livres. Les scores de vente des livres des politiques, c'est une catastrophe. Personne ne lit ses livres, personne ne les achète. Hein. Ça tombe bien, personne ne les écrit non plus. Enfin, c'est pas eux qui les écrivent, vous le savez. Le 4 juin, c'était le cas le même jour pour Édouard Philippe et Michel Barnier. Voilà. Éric Ciotti aussi. Voilà. On a oublié Éric Ciotti. Voilà. Fabien Roussel, Gérald Darmanin. Voilà. François Bayrou, qui a participé déjà 3 fois à l'épreuve, regarde cette agitation dans ses arrière-pensées. Je ne doute pas une demi-seconde qu'il ait très envie de devenir lui-même candidat. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Oh, j'avais pas vu le sondage. Si Samuel se présente, je vote pour lui. 76%. Je fais voter les morts, 19%. Je ne vote pas 4%. Vous êtes 76% à vouloir voter pour moi en 2027.
Eh bien.
Pour ce cas. Ma décision est prise. Oui, mesdames et messieurs, moi aussi, je vais y songer, je vais y penser, je vais y réfléchir, et je vous tiendrai au courant de ma décision. Comme le disait un grand philosophe grec, fonce, oublie que t'as aucune chance. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut toujours marcher.
Dont acte. Samuel, président. Bah, hey, 1 million d'euros collectés sur ma cagnotte au dernier The Event, on y était, hein. On y était, j'avais déjà une signature de député qui voulait bien signer mes 500 signatures. Alors, à gauche aussi, embouteillage, mesdames et messieurs. Jean-Luc Mélenchon, tous les postulants potentiels, Clémentine Autain, Marine Tondelier, François Ruffin, Olivier Faure, François Hollande, Raphaël Glucksmann, Bernard Cazeneuve. Système et symptômes d'un paysage politique éclaté, d'un système médiatique permettant des éclosions rapides. En 2017, Emmanuel Macron, on s'en souvient, s'était imposé en venant de nulle part, dixit l'un de ses proches. Du coup, tout le monde se disait mais qu'il a une chance. Hein, tout le monde se dit, moi aussi, je peux faire le coup de Macron, quoi, même si elle est très faible. Alors évidemment, d'ici la présidentielle, les sondages, les fameuses 500 signatures que j'évoquais à l'instant, vont produire un écrémage. En 2022, Hidalgo et Pécresse, qui représentaient pourtant 2 partis bien établis, n'ont pas fait 5% des voix, n'ont pas été remboursés, vous vous souvenez. Donc les banques ne veulent plus se mouiller pour 2027. Ah oui, faudra trouver l'argent. Hein. Voilà. Ce qui va pénaliser les candidats sans parti solide ou sans patrimoine personnel servant de garantie pour un prêt. L'article ajoute, évidemment, pour certains influenceurs comme Samuel Etienne, les subs pourraient venir pallier ce manque de financement. La candidature du célèbre streamer est à prendre avec beaucoup de sérieux, dit le politologue Jean Peuplu dans son dernier article publié aux Presses universitaires de France. C'est dans l'article là. Vous ne voyez pas parce que j'ai déjà passé le passage, mais c'est écrit là. En attendant, la compétition va se résumer à un grand « pourquoi pas moi ?». Comme le disait le général de Gaulle en 1962, ce qui est à redouter, ce n'est pas le vide, c'est le trop-plein. Oui, l'article l'a dit, mais je ne sais plus, c'est plus haut. Voilà, je ne sais plus où c'est. C'est plus haut. Voilà. Bon, on va pas manquer de... C'est l'embarras du choix, quoi. Incroyable, ça. Salut, David Honner. C'était quoi ton slogan de campagne ? La France est tienne. Ainsi que vos idées sont les miennes. Patrick, qu'est-ce que tu penses de ce sujet ? Ok. Sophie, qu'est-ce que tu penses de ce sujet ? Vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes même radicalement opposé. Eh bien, vous savez quoi ? Patrick, Sophie, je suis d'accord avec vous. Avec vous deux. Vos idées sont les miennes. Vous pouvez donc voter pour moi. Imparable. Qu'est-ce que tu as besoin de programme ? Ni pour ni contre, bien au contraire, dit Original Pimous. Je ne vois pas comment je peux perdre, même. Je ne vois pas comment je peux perdre. Je vous le dis, moi. Imprenable. Imbattable. Ah, trop fort. Point faible. Trop fort. Ok, maintenant je vais vous parler de... Ouais, ma prime rénov, ça vous hype ou pas ? Félicitations pour l'initiative du Louvre, jouer éduquer, merci Samuel. Merci Royal. J'ai hésité parce que j'ai un très proche ami, un grand écrivain, un grand cinéaste, qui s'appelle Yann Moix, qui n'était pas persuadé du concept, aller jouer aux jeux vidéo au Louvre. Il m'a dit, ah, c'est Samuel, jeux vidéo, c'est un peu pour les débiles. Et j'ai mis une taloche. Il me disait ça là... d'un air sérieux, en plus je lui ai mis une petite taloche comme ça, je lui dis arrête Yann de dire des bêtises, tu ne connais rien au sujet. Il m'a dit c'est vrai, je lui dis et alors. Donc je suis très content, jeudi prochain 20h, 12 juin on va se régaler, on sera au Louvre, on jouera aux jeux vidéo au Louvre. Merci Vicky. Dans quelle salle du Louvre ? Bah dans la salle de l'exposition sur les Mamelouks. Hein. Théma, quoi. Hein, on vous aurait dit il y a quelques années, hein, les gars, on va aller jouer aux jeux vidéo au Louvre. Hein. Ils m'auraient dit, mais il est fada, lui. Hein. Il a été bercé trop près du mur. Ça va pas bien dans sa tête, le vieux, là. Ça va pas. Hein. Loco, oui, exactement. Bah, Age of Empire, bien sûr. On va jouer à Age of Empire, un jeu qui évoque de célèbres batailles impliquant des Mamelouks. Mamelouks qui est le sujet de la très belle exposition temporaire qui est actuellement au Louvre sur cette dynastie, hein, qui a dominé le Moyen-Orient du 12e au 15e siècle, anciens esclaves devenus maîtres de la région. Quoi. En tout cas, incroyable. Voilà, je pense qu'après le prochain stream de jeux vidéo ce sera sur la Lune, hein, ou je sais pas où, moi, sur Mars. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Et toi Sam, si tu devrais consulter une époque IRL, tu prendrais quand même à se consulter, c'est-à-dire consulter. Tu veux dire revenir sur à une époque, pas revenir à une autre époque, tu dirais, Soufiane, si je pouvais revenir en arrière, c'est ça, les années 80, moi. Les années 80. Ah, t'arrives à une époque, tu regardes et tu reviens. Ah. Ben, moi, je veux bien arriver à l'époque de demain soir. Non, de ce soir, 20h. Et revenir. Là, je reviens dans le futur jusqu'à 20h. Et je reviens. Tac, tac. Un aller-retour très vite. Voilà. Un petit bond dans le temps d'une heure cinq. Je reviens et ma vie change. Voilà. Ça suffira. Réponse de poétique, ça commence. Mais non. Mais non, pas du tout. Non, mais. Non, parce que dans une heure, il y aura le tirage de l'euro million. Donc je prends le tirage, les 250 millions là, je remplis ma grille, je reviens en arrière. Voilà, c'est tout. Voilà, tranquille, tranquille. Les 205 millions sont miens, exactement. Et là, on est bien, là. Et là, on stream en toute détente. Hein. Et là, on continue à streamer, mais en toute détente. Hein. Je ne changerai rien. Hein. J'aurais peut-être un petit micro plaqué or, quoi, mais... Si tu gagnes, tu partages? Bah, bien sûr. Avec mon épouse. T'es déjà millionnaire, espèce de gourmand. Je suis surtout endetté, moi. On ne met même plus les pubs. Ah ben, il n'y a plus de pubs. Je les ai déjà enlevés à Warren. Il n'y a plus de pubs sur cette chaîne. J'ai mis les pubs à zéro. Il ne peut pas y avoir moins de pubs que sur ma chaîne. Les seules pubs que vous voyez, c'est en entrée de stream, celles qui sont imposées par Twitch. Il y a zéro pub sur cette chaîne. C'est déjà fait. Ça va acheter du skin Valo, ouais. Merci Algino, c'est gentil. Alors, j'enchaîne. Millionnaire et endetté proprio à Paris. Qu'est-ce que j'ai après là? Ah oui, bah bon, on parle de logement, on parle de ma prime rénov. C'est important ça ou pas? Comprends. Je sais pas si c'est. Dites-moi vous. Je me rends pas compte. T'en pensez quoi? Ma prime rénov permet de déconstruire. Pointant des fraudes, Bercy a annoncé la suspension du dispositif d'aide à la rénovation thermique. On s'en fout un petit peu, dit Viveur Club. Je sais pas, il paraît que c'est important. Un recul environnemental supplémentaire, surtout motivé par des raisons budgétaires. Une annonce qui inquiète le secteur du bâtiment. Il n'y a pas un petit édito pour nous résumer ça? On va lire. Libération semble de dire que c'est pas une très bonne nouvelle pour l'écologie. Suspension de ma prime rénov, le gouvernement jette un froid. Bercy a annoncé mercredi, donc il y a deux jours, mettre en pause le dispositif de rénovation énergétique pour l'été, prétextant des fraudes et un afflux de dossiers. Ces raisons peinent à convaincre les spécialistes qui y voient un recul pour la transition écologique. Voilà. Information qui inquiète et met en colère à la fois le secteur du bâtiment, les défenseurs de l'environnement et les propriétaires de maisons. Officiellement, le gouvernement annonce que rien n'est arbitré. Voilà, mais dès le lendemain, le ministre de l'économie, Éric Lombard, a vendu la mèche. Il dit il y a des fraudes, c'est encombré, on suspend. On suspend. Pure mauvaise foi, dit Amilcar dans le chat. Suspension donc du 1er juillet à la fin septembre. Bon. Les raisons invoquées par le gouvernement peinent à convaincre les spécialistes. Ce qu'on peut dire sur la fraude, c'est qu'elle existe, comme chaque fois qu'il y a de l'argent public proposé pour des aides, explique un responsable du réseau pour la transition énergétique claire. Voilà. Depuis 2022, des contrôles renforcés ont été mis en place d'ailleurs. Il paraît qu'il y a des triches, ça triche. Alors des fraudes, oui, elles existent. Sont-elles suffisantes pour justifier la suspension du dispositif? On pense que non. Le gouvernement se donne des excuses, disent monsieur. Dispositif réformé en 2024 qui a connu un fort engouement porté par des rénovations d'ampleur, bien plus efficaces et encouragées par la nouvelle version de la prime. Joli, joli. Cette suspension s'annonce, explique Libération. Par ailleurs, une longue liste de décisions défavorables à la transition énergétique et écologique, comme la baisse du bonus écologique pour les voitures électriques, les coupes dans le fonds vert pour les collectivités, la fin du bouclier tarifaire sur l'électricité. Le symbole est dévastateur pour Guillaume Gontard. Nous allons cet été arriver dans une période où certains logements ne seront plus habitables en raison de la chaleur. Et le gouvernement décide de suspendre le dispositif à ce moment-là. Fin mars, le gouvernement publiait son plan national d'adaptation au changement climatique et expliquait « Avec le changement climatique, les vagues de chaleur vont devenir de plus en plus intenses. Il est donc essentiel de s'assurer que les logements, qu'ils soient neufs ou anciens, soient adaptés au changement climatique pour qu'ils restent confortables lors des épisodes de canicule. » 3 mois plus tard, ce même gouvernement suspend l'un des principaux dispositifs qui permet d'y répondre. Ma copine, me dit Rayols, travaille dans une association de conseils de rénovation. C'est assez problématique et étrange comme décision. Je venais de faire un devis pour isoler chez moi, ça ne va pas aider, me dit Tilk. Salut, Glouglou is back. Bien, bon retour parmi nous. Le gouvernement cherche désespérément des thunes. Le laisser passer à 38. Ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux. Ouais. Bon. En tout cas, ceux qui avaient prévu des travaux de rénovation thermique chez eux, manifestement, vous n'allez pas être aidés, quoi. Et puis alors, je voulais pas, je vous ai pas lu ce passage, mais effectivement, il y a des conséquences potentielles dans le bâtiment. Ce que ni nous 83 ne dit dans le chat, les emplois dans le BTP, ça risque d'une catastrophe. Beaucoup avaient fait des investissements avec des dispositifs, que ce soit au niveau des salariés, mais même toute la chaîne des acteurs du bâtiment, que ce soit les artisans, les distributeurs, les industriels. Merci Chaolytique. C'est gentil, merci pour le 20e mois. Et merci pour ton message surtout. Voilà. Bon, à suivre. Est-ce qu'on passe directement au sport? Je suis pas sûr. Fais voir. Donc là, on était avec le Parisien. J'ai le temps ou pas? Attends, j'ai un... Si, attendez, il y a un truc que je ne vous ai pas parlé, mais dont j'ai oublié de vous parler dans le sommaire. Il y a un petit dossier croustillant dans le Parisien. J'ai oublié. Mais les influenceurs. La chasse aux dérives. Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, presse les géants, les réseaux sociaux d'assainir leur contenu au 9 juillet. Oui, oui, les influenceurs, mesdames et messieurs. Peut-être qu'on va trouver mon nom dans cet article en disant attention, attention. Mais qu'arrive-t-il à la jeunesse française ? Hein ? La question résonne de plus en plus fréquemment en écho aux faits divers impliquant des auteurs mineurs qui seraient de plus en plus précoces, plus inventifs que leurs aînés. Inventifs, pas vraiment, ils ont des sources d'inspiration en continu, en libre accès sur leur réseau d'information préféré, TikTok, Snapchat, Twitch, X, Meta, Twitch. Ils sont des mignons à suivre les conseils souvent déviants d'un certain nombre de vedettes du net. Certains ont acquis, merci Jean Abdoul, tu vas bien, leur notoriété numérique après une démission de télé-réalité, d'autres grâce à l'outrance de leurs exploits, au menu hypersexualisation, masculinisme, islamisme radical, homophobie. Vous l'avez compris, ce dossier du Parisien n'est que sur les comportements déviants de certains influenceurs. Le Parisien s'est livré à un inventaire des individus au contenu jugé les plus problématiques. Cette liste en grande partie, oui, sur Twitch. Mais le Parisien donne des exemples sur Twitch. S'est livré un inventaire des individus au contenu jugé les plus problématiques, on va voir lesquels. Une liste en grande partie réalisée par les services d'Aurore Berger, la ministre, qui répertorie les influenceurs dont les comptes ont déjà été fermés, mais qui l'ont rapidement rouvert parfois sous forme, d'autres formes ou sur d'autres réseaux. On va voir lesquels d'ailleurs. La liste passe de main en main depuis le 2 juin. La liste des influenceurs problématiques. Wanted. Voilà. Il y a quelques jours, par exemple, la ministre, donc Aurore Berger, a demandé et obtenu que TikTok supprime le compte d'Adrien Laurent, ex-candidat de télé-réalité, vous connaissez, vous ? Aux 2 millions d'abonnés reconvertis dans le porno. Je connais pas, moi. Accusé d'hypersexualiser les femmes. Vous avez aussi, on va en parler, du le Perpignanais Nasdas, sur Twitch notamment, Balti, et ses propos exaltant la violence, Alex Hitchens, et qui propage son fiel anti-femme. Adrien Laurent, moi je ne connaissais pas. Porno et controverse. Dos cambré, air excité. Les femmes sont dans ces vidéos des faire-valoir qu'il appelle ses pupus. Avec Adrien Laurent dit AD, elles sont toujours traitées comme des filles-objets. L'appétit insatiable, l'influenceur de 31 ans, ancien candidat de télé-réalité reconverti dans le porno, endosse la posture du dominant. Donjon irrésistible au sexe disproportionné. Dans son palmarès sexiste figure cette femme où il caresse la tête d'une femme à quatre pattes, masque de chat sur le visage, fesses tendues. J'ai adopté une petite chatoune, écrit-il sur Instagram. Liberté d'expression ? Non. Non, dévalorisation de l'image de la femme, future moon. Ça n'est pas de la liberté d'expression, ça. Hmm. Ouais. C'est tout ce qu'il faut faire pour bien niquer le regard des petits garçons sur les filles et les femmes. Ce n'est pas de la liberté d'expression, ça. C'est de la merde. L'influenceur fait de l'hypersexualisation un business. Il se vante d'avoir provoqué une déchirure vaginale à sa partenaire lors d'une séquence sur X qui fait le buzz. Je lui ai fait gagner 60 000 euros à cette petite princesse. Il décrit son métier d'acteur porno. Il faut savoir que je suis un animal. Quand j'ai la femme avec qui je vais tourner en face de moi, elle sait que ça va être 2 heures de carton. Je ne comprends pas tous les mots là. Un mâle alpha qui humilie les femmes. Mon client conteste en tout point ses accusations, dit son avocat. Il a toujours prôné le respect. Le respect. Le consentement. À rebours des thèses masculinistes. Alors il y a Nasdaq aussi. Alors le Parisien explique à ses lecteurs qui est Nasdaq. Soudain, une dispute éclate entre deux habitants. Cappuccino, son surnom, menace de jeter une chaise sur Assia. Elle, folle de rage, attrape un couteau dans la cuisine. Vas-y, lance, voilà, je te plante. Nasdaq, la star des réseaux sociaux, s'interpose, téléphone toujours à la main. Oh, je te parle, range ce couteau. La vidéo choquante vient ensuite alimenter son compte Snapchat aux 9 millions d'abonnés. Salut, Frosh-Shader. Oh, merci pour le raid. Frost, vous étiez sur quoi comme contenu, mon ami? Le numéro 2 du réseau social en France, de son vrai nom Nasser Nassari, filme toute la journée une bande de jeunes qui logent dans sa villa des Pyrénées-Orientales. Mais j'entends plus parler de Nasdaq, moi. Merci, Lady Traveur. De sa bande de jeunes qui logent dans sa villa des Pyrénées-Orientales au point d'en faire la célébrité d'une télé-réalité. Ancienne prostituée, SDF, ex-mineur isolé. Il est plus sur Twitch, on est d'accord, non? Parce que moi, je le vois plus. Nasdaq. 1 million de followers. Eh oui. Pas de live depuis 23 jours, je crois. Dernier live il y a 23 jours. Alors moi, je n'ai pas l'info, mais... Oui. Il fait une pause aux dernières nouvelles, me dit Wazicula... Un peu pour se faire oublier. Et oui, je voyais bien qu'il n'y avait plus. Il fait une petite pause, peut-être. Il stream très peu. Non, il streamait beaucoup. Là, il est en pause. Non, il y a un moment, il streamait tous les jours. Moi, je le voyais, je voyais ses lives. Il continue les Snapchat, par contre, me dit Sofiane. Ok. Le Perpignanais de 29 ans, connu pour distribuer des liasses de billets aux infortunés de son quartier, orchestre embrouille réconciliation. Il filme quand Djibril, jeune habitant de sa villa, devient fou de rage à cause de la tenue transparente de sa copine et lui lance un visage au téléphone. Nasdaq s'indigne et ensuite poste la séquence. Tant que ça buzz, une autre fois l'influenceur, qui n'a pas répondu à nos questions, ordonne aux filles présentes de plus se couvrir. Des dérives que des millions de jeunes regardent derrière leur écran. Alors moi, je ne connais pas non plus Alex Hitchens et Kylian Sensei. Ce sont des virilistes. Dans la constellation masculine, Alex Hitchens, 26 ans, 500 000 d'abonnés sur TikTok. Bon, bah moi aussi, hein, parle pas de moi. Hein. Moi aussi, j'ai 500 000 d'abonnés sur TikTok. Pourquoi ça parle pas de moi, là? Pourquoi moi, je suis pas problématique, d'abord? C'est fou, ça. Hein, c'est toujours sur les mêmes qu'on tape. Moi aussi, j'ai le droit. Oui, je suis un peu jaloux, oui. Incroyable, ça. Oui, Frosh-Shader, pour l'exclamation annonce. C'est fou, ça. Donc, Alex Chinchen, je connais pas ce monsieur. 26 ans, 500 000 d'abonnés sur TikTok, cultive une détestation des femmes qu'il traite de P, quelque chose, à longueur de vidéo. Ok. Cet autoproclamé S-basketteur professionnel, prétendu as de la séduction, qui vend des formations. Ah, c'est les mecs qui vendent des formations de séduction, là, avec les conseils et la mort moelle-neu, là. Ah ouais, ça, c'est vraiment de la merde. Alors, pardon, hein, ça, c'est vraiment de la merde, ça. Hein. Ah ouais, annonce au singulier. À l'écouter, les femmes sont des ingrates comme les enfants, et elles n'ont rien à faire dehors après 22 heures. Oh, mon champion! Oh mon champion! son discours sans commune mesure avec Adrien Laurent qu'il déteste, cumule mépris, préjugés sexistes, humiliation. Alex Hitchen discute avec un homme qui a été trompé, il tente de le dégoûter. Ferme les yeux, écoute les coups de rein, va-t-il jusqu'à mimer en claquant ses mains, ça fait 7 fois. Ça fait 7 mois qu'elle se fait taper dedans. Ah mais c'est un poète lui. Voilà, la culture du viol élevée à son paroxysme, renifleur de paix, tu as raison. Son sujet de prédilection, juger les femmes à l'aune de leur passé sexuel. On tient un champion là. Audrey Chipot, qui est une lanceuse d'alerte sur les dérives des influenceurs, s'inquiète. De nombreux lycéens estiment qu'Alex Hitchens est un modèle masculin. Eh oui. Alors il y a un complotiste que je ne connais pas, qui a des gros biceps, nous dit le Parisien, qui s'appelle Kylian Sensei, 200 000 abonnés sur YouTube. Lui, il exhorte les hommes à reprendre le pouvoir et à dominer les femmes. Oh là là là. Aucun des deux n'a répondu à nos sollicitations. Ok. Alors moi, je ne connais pas non plus Bessem et Balti. En 2018, le blogueur de Vénitieux, Bassem Breki, 500 000 abonnés sur YouTube, est condamné à 8 mois de prison avec sursis pour propos homophobes sur Snapchat. Bon, je vous les cite pas les propos homophobes parce que c'est pas possible, quoi. L'influenceur de 44 ans, collier de barbe et carrure athlétique, fait depuis parler de lui pour son racisme et sa misogynie. Au sujet de sa fille, il déclare « Dès qu'elle a des formes, elle n'ira plus à l'école. Mes belles-sœurs, je ne leur serre même pas la main. » Balti, crâne rasé et barbe fournie, 190 000 fans sur TikTok, banni de Twitch il y a 3 ans pour avoir dit qu'aucune femme ne peut passer sur la plateforme sans montrer son cul, cautionne les violences conjugales. « Jamais je n'en voudrais à un homme d'avoir mis une patate ou une gifle à une meuf. » Ces gens existent. Si ta femme te fait vivre la misère, je ne peux pas en vouloir à un homme d'avoir craqué. Contactez Balti se défend. Si une femme se jette sur moi, c'est normal de se défendre. On ne parle pas de la battre. Je suis contre les violences conjugales. Ok. Bon, après, il y a les influenceuses qui sont les promotrices de fausses. De trucs. Beauté, là, hyper dangereux, là. Ça, c'est encore un sujet, ça. Aussi. Et donc, alors c'est quoi là, l'initiative politique là, que je comprenne, que veut la ministre? Elle appelle les responsables. Elle invite les plateformes à supprimer ses comptes en fait. Elle a interpellé les géants des réseaux sociaux pour qu'ils fassent le ménage en ligne. Prenez vos responsabilités. Ouais, bah ouais, on est d'accord. On est d'accord. Ok. On est d'accord. Samuel, si tu découvres ces odieux personnages, je te conseille le documentaire Mascu sur YouTube. C'est flippant, me dit Koamachala. Préservons notre jeunesse de ces contenus, hein, en vrai. C'est aux gens de faire le ménage, personne ne les force à les suivre ou les soutenir. Le compte de Monte Cristo. En fait, non, c'est pas juste ce que tu dis. Parce que à l'âge où se forment les valeurs, à l'âge où se forme le regard sur le monde, à l'âge où se forme le regard sur les autres, ceux qui ne sont pas toi, les autres, les représentants du sexe opposé, à cet âge-là, quand tu es en capacité, volontairement ou involontairement, de tomber sur ces contenus, et d'être influencé dans ta formation intellectuelle par ces contenus de merde, et en fait, ça risque de te faire vriller, quoi. Et donc, en fait, il faut protéger ces jeunes de ces contenus. Voilà. Et donc, toi, tu dis, bah, il suffit qu'ils ne regardent pas. Bah, c'est plus compliqué. Le mieux, c'est que ces contenus n'existent pas, mon chouchou. Parce que des propos discriminants, racistes, sexistes, homophobes ou que sais-je, ils sont pas juste à ne pas regarder. Ils sont illégaux et ils doivent être interdits. Merci Julien pour le 46e mois, la vache. Hein, voilà. Et les parents doivent jouer un rôle et les enseignants peut-être aussi et les influenceurs aussi en expliquant ce genre de choses. Hein, les enfants ados sont influençables, bien sûr, par exemple. Ils sont en période de construction. Comme Papacito qui a été banni de toutes les plateformes? Je ne savais pas qu'il a été banni de toutes les plateformes, Jotagan, mais c'est un très bon exemple. Alors, où est-ce que je vous emmène maintenant? C'est quoi cet objectif d'abonnement là-haut? Ah oui, j'ai 2065 subs actuellement. Si j'arrive à 2300 subs, qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis à 2065 subs. Si j'arrive à 2300, ça voudra dire... Non, Jean-Abdoul, ça ne veut pas dire à poil. Ça voudra dire... Non, pas OnlyFans. Non, pas Champagne. Ça voudra dire que je suis à 2300 subs. Voilà exactement, Wazi Lucas. J'aurai 2300 subs. J'aurai plus de subs. Parce qu'en fait, 2300, c'est plus que 2065. Et si j'atteins 2300, je mettrai un autre objectif. De 2400, par exemple. Ouais. C'est ça. En fait, ça veut dire ça. Objectif d'abonnement. L'effet ici. On dit les termes ici. On n'a pas peur de la réalité. On a peur de rien, même, d'ailleurs. J'en ai vu des sub-goals, mais là, je suis sur le cul. C'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est du génie, mais c'est l'objectif. 2300, tu te laisses pousser la barre. Non, 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 2300, c'est 2300. Merci, Nanis TV. On se rapproche. On se rapproche. Merci, Damos. Et hop là, bam. On n'a jamais été aussi proche. C'est trop gentil. 2300 chauve. Non. 2300, 2300. Merci, Votou TV. Et hop là. Un de plus. Mademoiselle Bébé, bon, j'aurai pas la réponse. Non, mais c'est une vraie réponse, Mademoiselle Bébé. Non, mais je troll pas. Non, 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 mais l'objectif de 2300, c'est 2300. C'est l'objectif, c'est ça le truc. Je troll absolument pas. Il y a zéro message caché. L'objectif, c'est 2300 subs. Et après, objectif, bah on en met un autre. On cache rien ici. Pourquoi tu l'affiches? Bah pour que... Mademoiselle Bébé, continue. Pourquoi tu l'affiches? Bah pour que tu connaisses l'objectif. Hein? C'est la course à l'échalote. Non! C'est la course au sub. Alors, plus sérieusement, est-ce qu'on parlait pas de sport là maintenant? Si, je crois bien. 6, 7, 8. Ah, Madame Boisson. Ça, je suis triste par contre. C'est fini. C'est où ça? C'est dans Libération. Libération est triste aussi. Ça, c'est moche ça. J'ai rêvé de la voir en finale. Voilà, regardez. La naissance d'une championne. J'ai rêvé de la voir en finale. Merci Mbalak. Voilà. Et puis bon. J'ai rêvé même. Il y a Djoko qui joue en ce moment. Ouais, mais à quoi? Mario Kart? Parce que je sais qu'il a acheté sa Switch 2 là. Patrick Cohen. Le Patrick Cohen? On en a parlé tout à l'heure de Trump et Musk, ouais. Merci Alice. Bah, l'idée, c'est de faire œuvre de pédagogie, oui, t'as tout compris. Alors, Libération, très triste. Hein. Loïs Boisson, du rêve au revers. On en a tous rêvé. Hein. Qu'elle atteigne les finales, voir qu'elle gagne Roland-Garros, ça aurait été juste incroyable. Elle nous a fait rêver. Nico Pradi, tu as raison, c'était très très beau. Jeudi, la joueuse tricolore de 22 ans s'est inclinée sèchement en demi-finale, bon, 2-7, de Roland-Garros contre l'américaine Coco Gauff. 6-1, 6-2. Aïe. Elle était peut-être un peu fatiguée, non? Malgré cette défaite, ce parcours singulier lui permet de devenir la numéro 1 française. Loïs Boisson qui était 361e mondial. Oh, c'était mignon. C'est mignon ça, regardez. Avant la demi, Roland Garros avait publié sur son site un sondage pour savoir qui de la française ou de l'américaine Coco Gauff les fans voyaient s'imposer. 56 000 votants, 81% imaginaient la tricolore l'emporter. La magie de Loïse Boisson se résume ainsi, elle réussit par sa confiance à toute épreuve à faire germer dans la tête des fans l'idée que l'impossible était possible. Qu'une joueuse si mal classée qu'elle n'aurait même pas dû pouvoir participer aux qualifications du Grand Chelem, elle a été invitée, elle a une wild card, je vous le rappelle, puisse battre la deuxième joueuse du monde sans que plus personne ne trouve ça étrange. La réalité du terrain a été bien plus brutale, la Française a été balayée 2-7. 6-1, 6-2, elle ne verra la finale qu'en tribune ou à la télé. Elle passe numéro 1 française, bien sûr, puis même au niveau mondial, je crois qu'elle passe 64e, je crois. Voilà. Alors, Libération raconte le match, c'est vers 18h, donc 65e. 18h hier, une fois le match à rallonge entre Swiatek et Sabalenka terminé, on a vu d'entrée les 359 places qui séparaient Boisson et Gauff au classement. Voilà. La Française a démarré sur un faux rythme, comme si son lance-roquette de bras droit et ses jambes étaient restées au vestiaire. Coco Gauff, elle, faisait tout l'inverse de la veille quand elle s'était imposée en quart de finale dans un match brouillon. Voilà, l'américaine a mis la balle dans le court, dépoussiéré les lignes, passé ses services. Résultat, 6 jeux à 1 après 35 minutes et un court Philippe Chatrier transformé en réfrigérateur. Enfin, en frigo, quoi. Samuel, c'est quand le The Event 2025? Je sais pas. Stéphie, faut demander à Zera. Je serais tellement fier d'y participer à nouveau. Mais bon, il y a beaucoup de créateurs de contenu et de créatrices de contenu qui veulent participer aux The Event. Voilà. Et si je serais évidemment très heureux d'y participer une deuxième fois. Mais je comprends tout à fait que Zera veuille aussi laisser la place à d'autres, quoi. Mais bon, je serais très heureux de participer à pour moi le plus beau stream de l'année en France, quoi. Dans la deuxième manche, Loïse Boisson n'a retrouvé que par moments éphémères sa fulgurance qui lui a permis de renverser coup sur coup les numéros 3 et 6 mondiales. C'était bien trop peu face à une adversaire qui, pour la première fois depuis le début de la quinzaine, n'était perturbée ni par ses lifts tourbillonnants en coup droit, ni par ses revers slicés à répétition, et encore moins par le public. Merci Patrick. Le conte de fées a pris fin en moins d'une heure dix et Boisson a fini la tête sous sa serviette, les yeux rougis en se frappant le crâne, quand on a volé si près des étoiles, la retombée sur terre est violente. Dans quelques jours, quand elle aura digéré sa défaite, la Dijonnaise se consolera en se disant que qu'elle, celle que, dont personne ou presque ne connaissait le nom il y a 10 jours, je ne connaissais pas son nom, a fait vibrer la France entière comme aucun tricolore à Roland-Garros depuis une décennie au moins. Elle découvrira en ouvrant ses réseaux sociaux dont elle se tient éloigné porte d'Auteuil, sa nouvelle popularité. Depuis 48 heures des unes des quotidiens généralistes aux ouvertures des radios, journaux ou télévisés, hein, tout le monde n'avait Dieu que pour elle. Hein, c'est un super parcours, me dit Marty, elle a fait un grand parcours, backdraft bien sûr. Loïse Boisson devra se faire à son nouveau statut de 65e joueuse mondiale à partir de lundi, première française au classement WTA. Celle qui n'avait connu jusqu'ici que le tournoi, que les circuits secondaires, entrera directement dans les toits du Grand Chelem. C'est ouf. Hein. Elle a clairement lancé sa carrière, me dit Arrobas, bien sûr. Après, il faut qu'elle confirme, il faut qu'elle maintienne. Et pour arpenter les tournois sans soucier de son compte en banque, désormais bien rempli, puisque sa demi-finale lui a rapporté 698 000 euros. Elle devra aussi gérer les sponsors, les sollicitations médiatiques, les fans qui la reconnaissent dans la rue, la pression, les attentes. Il y a quelques jours, Pauline Parmentier disait à Libé ne pas être inquiète pour l'après. La coach des Bleus imagine Loïse Boisson exploser par la suite car elle a une marge de progression énorme. Sans aucune expérience des grands tournois, certes avec un revers encore fragile et son jeu au filet perfectible, la Française a joué les yeux dans les yeux avec les plus grandes du circuit. Qui sait ce qu'elle sera capable de faire dans quelques mois, dans quelques années, une fois ses défauts gommés. Mon rêve n'est pas d'atteindre la demi-finale mais de remporter le Grand Chelem, disait-elle jeudi, rendez-vous dans un an. Très beau papier de Libé. Libération, ils ont eu des papiers sur Loïse Boisson à faire pleurer. Ils sont totalement fans, j'adore. Voilà. Elle nous a fait rêver, c'est magnifique. Merci Madame Boisson. Et quel âge elle a? Une vingtaine d'années, Loïse Boisson, non? Vous savez ça, vous? Vous savez tout. 22. Une enfant. Une enfant. Je sais que moi je ne suis pas un grand spécialiste de tennis, mais certains sont amateurs parmi vous et je sais que vous avez apprécié de l'avoir joué. Quel est un style Qu'est-ce qu'il a dit, Patrick Machin? Juju? Attends, je vais aller voir. Vorona Circus, tu m'envoies un petit point d'exclamation, annonce dans le chat et tu vas avoir l'annonce.
Allô.
Est-ce qu'il reste? Qu'est-ce que tu dirais au toi de 22 ans, Samuel? Me dit Soufiane. Qu'est-ce que je dirais au moi de 22 ans? Intéresse-toi un petit peu à le truc nouveau là dont tout le monde parle un peu, là, Internet, là. Je sais que t'as l'impression que c'est... Ça n'a pas trop marché, ce machin-là, mais intéresse-toi un peu à Internet, en vrai. Ouais. Et puis, remets-toi aux jeux vidéo, là. T'as arrêté quand t'avais 17 ans, là, parce qu'il y avait le bac, tout ça, mais... Ils sont pas terribles, les jeux, là, mais ça va se décanter, ça va décoller un peu, ces machins, tu verras. Il y aura les pixels, tout ça, les jeux vidéo. Si, si, les trucs, là, pour les enfants, là. Si, si, intéresse-toi. Puis n'insiste pas sur cette histoire là aussi là perso là, c'est pas la peine là. C'est que non, c'est que les ennuis. Ah oui, je lui donnerai les chiffres du loto bien sûr aussi. Non, moi ouais, je ferai ça. Ouais. Aujourd'hui, j'aurai mon équipe et j'aurais su ça, j'aurai mon équipe e-sport aujourd'hui hein. J'aurai mon studio de jeux vidéo aujourd'hui. Je serai le parrain, hein. On m'appellerait le parrain. Ce serait pas Mister CH, c'est le parrain. Samuel Corp. Il est pas trop tard? Oh là là là. Je suis fatigué. Alors, bon, un petit mot de football pour terminer, pour se lamenter. Oh, quelle histoire, parisien. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait là, Parisiens, Samuel? Qu'est-ce qu'ils ont fait les... Oh là là. Moi, j'étais devant le match, moi, hier. Ça a bien commencé au début, hein. Le rythme, la possession du ballon, c'était 100% français, hein. Puis après, un but, deux buts, pop, 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 pop. C'est quelle page? Page 20. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Le truc des nations, on s'en fout un petit peu? Ah bah non, moi, j'étais avec mes enfants devant le match, moi. On s'en fout vraiment, je t'inquiète. Passé pas loin de la déroute, ce jeudi, les Bleus Didier Deschamps ont sombré contre les champions d'Europe avant de se reprendre en fin de partie. Ils ont longtemps joué en plein cauchemar. Bisous à ta grand-mère, Drardlove. Oui, revue de presse le soir, Kalindi, on innove. Parce que ce matin, j'ai pas pu la faire parce que j'avais un engagement. C'est juste une compète pour remplacer les matchs amicaux. C'est pas faux. C'est vrai que cette Ligue des Nations, ce sont les anciens matchs amicaux. Mais avec un petit enjeu, quoi, maintenant, quoi. Cherki a tellement débloqué le jeu, si seulement il était rentré plus tôt. C'est vrai. C'est la coupe des matchs amicaux, on s'en tape, Clamakine. Alors je suis pas très bon en foot, moi, parce que hier mes enfants m'ont dit « Papa, ce match-là, c'est plus important que la Ligue des Champions. » Et moi je leur ai dit « Bah là, tu vois, c'est des nations qui s'opposent, alors que la Ligue des Champions, c'est des clubs. Donc oui, dans un sens, c'est plus important. » En fait, je raconte de la merde, en fait. En fait, je raconte vraiment de la merde, en fait. Je vais leur redire ce soir. Je vais le redire ce soir. Je suis vraiment nul. Non, parce que comme des... France, Espagne, tout ça. Je vais corriger. Si tu as vécu un bon moment en famille, c'est le principal. En plus, moi, j'avais un pro France et un pro Espagne. Le petit, je sais pas, il était fasciné par le maillot rouge de la Roja. Et puis, je crois qu'il a un copain à l'école qui est d'origine espagnole ou qui est espagnol. Et donc, du coup, il était pour l'Espagne. Donc, il y avait France, Espagne. Et donc, il y en a un, mon Malo, mon grand, il avait l'écharpe et tout, aux couleurs de la France, il avait un bonnet phrygien. Malo, 8 ans, il a regardé le début du match, le début, parce qu'après, ils sont allés se coucher, faut pas déconner. Il avait un bonnet phrygien, quoi. C'était Marianne, quoi. Voilà, avec une écharpe. Et il disait à son petit frère de 5 ans, t'aimes pas ton pays? T'aimes pas ton pays ? Et Sola disait si, j'aime mon pays. Je crois qu'il a un copain qui est pour l'équipe d'Espagne. Il connaissait un nom de joueur en plus. C'était drôle les deux. J'étais au milieu pour les séparer. Et il me disait, t'es pour qui toi ? Bah je dis, moi je suis pour l'équipe qui va gagner, moi. Je voulais pas les fâcher les deux. Et donc je leur ai dit, quand vous allez vous lever demain matin, je vais vous donner le score. Voilà. Donc j'ai dit à Malo, tu vas être content, parce que quand Malo il est parti se coucher, les Français ils avaient zéro. Je lui ai dit, Malo, tu vas être content. Les Français ils ont mis 4 buts. Ah, Malo était content. Ouais. Et non pas Lamine Yamal, un autre. Et du coup, Solal était un peu triste. Et j'ai dit à Solal, mais tu vas être content toi aussi, parce que les Espagnols ils ont mis 5 buts. Tête de Malo. Et Solal il était, ouais. Faut imaginer à 7h du matin, non. De 8h du matin, le petit. Pedri. Il dit, ouais. C'est incroyable, c'était drôle. C'est mignon en vrai. Pedri. Connaissait Pedri. Et donc, après, on regarde les joueurs espagnols chanter l'hymne, là. Hein, c'est pas, excuse-moi, je dis une bêtise. C'est pas Ballon d'Or, Pedri, un truc comme ça. Et donc, qu'est-ce que je racontais ? Ouais, bref, on a passé un bon moment. Quoi. Ballon d'Or, c'est ça. Ouais. Ah oui, et à un moment, il chante l'hymne espagnol. Je lui dis, mais c'est lequel ? C'est lequel ? Il me dit, je sais pas, je l'ai jamais vu. C'est ses petits copains, il lui raconte tout ça. Ballon d'Or, c'est ça. Bah, il a dû entendre ça. Ballon d'Or 2024, c'est ça. Tout jeune, non ? Je débarque un peu, mais tu sais quoi ? Oh, c'est le France-Espagne hier soir. Comment ça, il a refusé la princesse d'Espagne, c'est quoi ça ? Chanter l'hymne espagnol, il n'y a pas de parole ? Ah bon, il chantait pas ? Ah bon, il n'y a pas de l'hymne espagnol ? Il chantait pas ? Il faisait quoi ? Comme ça ? Je sais pas, j'ai pas vu. C'est Rodri le Ballon d'Or 2024, on nous dit. Pas Pedri. Vous êtes nul en foot, vous êtes plus nul que moi. Dans l'hymne espagnol, il n'y a pas de... Vous êtes sûr ? Ok, merci Sam, je ne suis pas du tout le foot. Bon, non plus, je comprends rien. Hymne espagnol.
Booking.com propose une multi.
C'est la pub, ça. Y a pas de. Non, mais confirmation, il n'y a pas de parole, hein, vous aviez raison. Comme quoi, hein. C'est fou ça. J'ai failli douter du chat. Mais ouais, vous aviez raison. Non, mais peut-être que c'est plus compliqué que ça. Acliseus me dit, il n'y a pas de parole officielle en dépit de plusieurs tentatives de lui en fournir. Les paroles font l'apologie de Franco, donc officiellement il n'y en a pas, mais dans les matchs officiels il les enlève. Ah, il y en a, mais en fait il les enlève. Ah, parce que ça vient de l'époque franquiste. Oh nom de Dieu. Ah, c'est hyper intéressant. Attendez, on va aller voir. Oh là là, c'est génial cette histoire. Bim. J'ai appris un truc grâce à vous. Allez voir Wiki. Matcha Real. Et non, Undo Stress, Pasito par là, c'est pas l'hymne espagnol. Hein. Et Me Gusta Shakira non plus, hein, les gens qui pensaient là. Alors, la marche réelle qu'on a entendue à l'instant, la marche royale, est l'hymne national et royal de l'Espagne. Il n'a pas de paroles officielles en raison de plusieurs tentatives de lui en fournir. Donc sous Franco, il y en a eu des paroles, mais Shakira est colombienne, mais pas espagnole. Mais on le sait, un mec en slip, 68. On le sait. Mais ça s'appelle rigoler et troller ensemble. De même que Ricky Martin n'est pas espagnol d'ailleurs. Parole. L'hymne est joué mais jamais chanté. Ils ont essayé de trouver des paroles mais non. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Vous aviez raison. Mais sous Franco, il y en a eu. Marrant, hein. Ok. Incroyable. Les amis, un grand merci. Voilà. On se retrouve ce soir, un petit peu tard, peut-être vers 22h, je dirais 21h30, pour un deuxième petit stream de gaming. Peut-être la suite de Heavy Rain, par exemple, ou alors à moins qu'on remette Mario Kart, je verrai. En tout cas, Mario Kart, je l'emmène à la maison. J'ai la console là qui est dans l'entrée, la Switch 2, pour faire découvrir le nouveau Mario Kart aux enfants. Ça va être la régalade vendredi soir. Comme ils sont gentils comme tout, ils ont le droit à un petit peu jouer aux jeux vidéo. Donc on va se retrouver pour. Tu as arrêté Valorant ? Pas du tout, je vais l'en faire. C'est mon petit plaisir, ça. Voilà. Je vous rappelle l'annonce que j'ai faite pendant ce stream. Je suis très très fier de vous emmener au Louvre la semaine prochaine. Pourquoi on va au Louvre la semaine prochaine ? On va au Louvre la semaine prochaine pour jouer aux jeux vidéo.
Jouer aux jeux vidéo, c'est bien. Mais j'ai trouvé mieux jouer aux jeux vidéo dans le plus célèbre musée au monde, le Louvre. Jeudi prochain, le 12 juin à 20h, à l'occasion de l'exposition Mamelouk au Louvre, sous ses anciens esclaves devenus les maîtres du Proche-Orient pendant près de 3 siècles, nous allons jouer avec l'ami AlphaCast à Edge of Empire, jeu qui reconstitue notamment des célèbres batailles auxquelles ont participé les Mamelouk. Mais ça n'est pas tout, nous visiterons aussi cette très belle exposition Mamelouk avec ses deux commissaires. Et à la fin du live, puisque tout se passera en direct sur ma chaîne Twitch, un chef nous fera déguster un plat inspiré de l'époque. Un live historique donc. Rendez-vous le 12 juin, jeudi prochain, à 20h.
Bam! Incroyable. C'est fou. Ça va être bien. Ça va être super. Jeudi prochain, 20h, voilà. On parlera d'histoire, on parlera d'art, on parlera d'art militaire et on parlera de jeux vidéo, puisque les batailles célèbres auxquelles ont participé les Mamelouks, elles sont notamment dans Edge of Empire 2 et 4. D'où la présence de l'ami AlphaCast. Ça va être incroyable. Juste dommage que le micro soit pas ouf. Bah, c'est parce qu'il n'y avait pas de micro. Joe m'a dit, on va le faire à l'iPhone, ça ira bien. En fait, non. Il y avait trop de monde sur la place carrée là, du Louvre, il y avait trop de touristes. On aura dû mettre un petit HF. Ouais, ça c'est la prochaine fois on mettra petit HF. T'as carrément raison. Tu as vraiment mis l'armure ou c'est un montage grossier? Pas du tout, bien sûr. Je vous rappelle que je suis chevalier des arts et des lettres. Quand je me balade dans la rue à Paris, je suis en armure. Shiny. Étincelante. Voilà. Ouais. Avec mon épée de chevalier. Et mon cheval. Les habitants du quartier le savent. Hein. Avant de me voir, ils m'entendent. Donc effectivement, c'est mon armure personnelle. Merci Guigui 5555. Merci Théalc. Merci Hellfire. Merci Kalindi. Merci Yoman. Merci à tous ces subs que je n'ai pas vus. Ma grosse épée. Non, c'est une épée normale. Ouais. Non, c'est nous. C'est moi qui l'a fait briller. Oui. Un peu crispé. Non, c'est parce que ce jour-là, j'étais un peu constipé. Parce que là, voilà. Comme j'avais été trop longtemps sur la selle du cheval, j'avais du mal à aller à la selle, l'autre. D'où cet air un petit peu, les lèvres un peu pincées, là. Oui. Non, c'est vrai. On est sur Twitch, je vous cache rien. Bon, ça se voit direct, bah ouais. Qui est en live?
Faire des...
Qu'est-ce qu'il me couille de pas, mon chouchou? Les amis, je vois que la Misérator est en live, notamment pour parler de la LAN Mario Kart et du hangar. cette belle initiative qu'il a lancée. Alors, il est venu en live hier pour nous parler de ce qu'il organisait au hangar. Et j'avais une belle invitation que je ne peux pas honorer parce que j'ai deux engagements dans les deux samedis à venir. Un MVP spécial Vivatech. Et puis, qu'est-ce que j'ai l'autre samedi? Ah oui, une question pour un champion exceptionnellement. Voilà. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'y être invité. Donc, allons voir la Misera. Et moi, je vous retrouve à partir de 22h. Mais en tout cas, il a l'air de faire des annonces qui ont l'air un peu sympas. Le Zera. Hop, c'est parti. Les amis, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci de la force que vous donnez aux streamers et aux streameuses. Et on se retrouve pour un deuxième stream demain. Ce soir. Voilà. Un petit Heavy Rain ce soir, chill, ça peut être une bonne idée. Merci encore. À tout à l'heure, bande de beaux gosses. Annonce d'un stream exceptionnel. Hop, ça part dans quelques secondes. Bisous.
Corps des gens qui te le donnent, t'es banni. Donc c'est un react normal, quoi. Voilà. Moi, vous savez, je pense qu'à partir de ce stream ce soir, on pourra dire qu'on peut faire du react à la limite si on est payé pour le faire. Ça peut être pas mal. Et voilà. Alors que Samuel Etienne nous raide. C'est dommage, vous arrivez juste après la chanson. Ah, c'est vraiment dommage.